ateliers qui en général suivent dans le même cycle thématique la conférence introductive. Donc là, on va avoir une conférence sur les CAGDAS, donc les Computer Assisted Quality Data Analysis System, un truc comme ça. Et on aura donc normalement un atelier, voire deux ateliers qui suivront pour pousser un peu les questionnements et éventuellement voir et s'initier à des outils de manière plus concrète. Ces ateliers pratiques numériques et donc le chantier avec la conférence, les ateliers sont des. Cette programmation d'ateliers, elle est aussi elle a été menée grâce à l'association finalement des laboratoires voisins comme les sociologues sur notre dévers. EVS qui sont les géographes et puis d'autres, le LARA, le laboratoire d'histoire et ISOMA pour le monde antique et même institut de la pensée classique IHPC. Donc ça fait boule de neige cette idée et du coup maintenant c'est tout un réseau de spécialistes pour aider les doctorants et les chercheurs à se former et à réfléchir sur ces pratiques numériques. Donc maintenant, je peux peut-être laisser l'organisateur de la séance parler et l'inviter.
Merci d'abord d'être venu. Bonjour à tous. Simplement, d'un point de vue logistique, en gros, on a à peu près deux heures pour échanger, entendre Clément et discuter un peu autour de cette question-là. Pour situer brièvement, l'idée, c'est que c'est un peu la conférence inaugurale sur les CAGDAS, donc sur les logiciels d'analyse quali. Avec l'idée que l'intervention sera une intervention assez générale pour finalement préciser un petit peu pourquoi utiliser un CAGDAS ou ne pas utiliser un CAGDAS plutôt que d'autres types de logiciels et un peu faire un tour assez rapide au moins sur deux de ces logiciels, voir comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Donc c'est une présentation assez générale. L'idée c'est évidemment pas de rentrer à l'intérieur, de voir comment on peut utiliser ces logiciels. Ça viendra un peu plus tard sous la forme des ateliers. À cet égard, je vais animer une formation donc qui sera un peu un entre-deux, donc qui commencera à rentrer un petit peu plus dans les logiciels pour autour de deux logiciels, dont Atlas, dont va nous parler Clément, et aussi un autre logiciel dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, qui s'appelle Sonal, qui est plutôt un logiciel qui travaille sur le son, donc sur les transcriptions, plutôt que sur le texte, etc., etc. Pour dire deux mots rapidement de Clément, dont on remercie vivement d'avoir accepté de venir nous parler un peu de tout ça. Donc Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, félicitations.
Merci.
Laboratoire communication et politique. On l'a invité, j'ai proposé qu'on l'invite parce qu'il a travaillé dans le cadre de sa thèse en fait sur les débats parlementaires et notamment donc sur les textes de transcription de ces débats-là. C'est un usage qu'on trouve intéressant parce que décalé par rapport à pas mal d'autres usages où d'habitude les CAGDAS c'est plutôt des gens qui travaillent sur les entretiens et dans une moindre mesure sur les carnets d'observation. Donc là c'est un usage à la fois très proche de ce qu'on peut faire dans les entretiens. Vous verrez que les fonctionnalités utilisées, les usages sont très proches. Et en même temps l'idée c'est de dire c'est pas parce qu'on ne fait pas d'entretien ou l'observation participante qu'on ne peut pas utiliser ces outils-là, c'est encore une fois de l'analyse quali, donc sur des supports relativement différents, de la vidéo, du son et du texte, et des textes extrêmement relevant de genres discursifs, relevant de types de supports assez différents. J'insiste là-dessus parce qu'encore une fois, certains usages ont tendance à restreindre les potentialités de ces logiciels. Donc Clément va nous parler un peu de tout ça pendant trois quarts d'heure, une heure, et puis après je reviendrai simplement peut-être 5-10 minutes, j'essaierai d'être très court pour rajouter peut-être quelques points, préciser certaines choses ou parler d'autres types d'usages. Et puis évidemment après on aura cette joyeuse séance de discussion, j'espère qu'il sera constructive, ça ferraillera dans tous les sens pour dire « et moi comment je fais ?» etc. etc. Sur ce je laisse immédiatement la parole à Clément.
Merci beaucoup Thibaut de m'avoir invité, merci à tous d'être venus. C'est une surprise heureuse que de trouver autant de visages dans une salle où l'on parle de ces bêtes étranges que sont les CAGDAS. C'est un usage numérique dans lequel je suis tombé quand j'étais petit, en l'occurrence quand je faisais il y a fort longtemps mon Master 1 à l'époque en histoire où on nous avait imposé de faire des bases de données. Et en ce temps-là, j'étais encore un jeune homme de bonne volonté, j'avais décidé de me plier au jeu. Et j'avais bricolé avec un logiciel qui n'était pas du tout adapté, qui s'appelle FileMaker, qui est très bien pour faire de la comptabilité du secrétariat, beaucoup moins bien pour faire de la recherche. J'avais bricolé une base de données dont les individus étaient des segments de texte. C'était ce qui me semblait le plus adapté pour ce que je faisais, qui à l'époque était l'analyse des canons des conciles mérovingiens du VIe siècle. J'en garde un souvenir ému. Et l'année suivante, quand j'ai basculé en sociologie politique, et où là j'ai découvert que l'analyse factorielle ne se faisait pas simplement sous Excel avec une macro bidouillée dans un garage, mais qu'il y avait un logiciel qui s'appelait SPSS et que les historiens ne connaissaient pas du tout, j'ai découvert aussi qu'il y avait des logiciels qu'on appelle des CACDAS, en l'occurrence Atlas TI, qui faisaient de manière systématique et programmée et puis simplement prévue pour ça, ce que moi j'avais bricolé dans mon logiciel de base de données. Et c'est comme ça qu'au fond, sur ces 8 années à faire de la recherche, je crois que j'ai passé 8 années à travailler sous CACDAS, un an où je l'avais bricolé moi-même et 7 où j'ai utilisé un logiciel fait pour cela. Ce que j'aimerais vous proposer au fond aujourd'hui, c'est déjà une présentation des outils qui demeure, je crois, encore assez méconnue, les situer également par rapport à d'autres méthodes informatisées d'analyse de texte, notamment la lexicométrie, et puis surtout rentrer dans le vif du sujet, vous montrer comment est-ce que ces logiciels embarquent une méthodologie, voire même parfois embarquent une épistémologie. Et donc là, à partir de là, la question c'est quelle méthodologie on va employer, avec quelle entrée on va utiliser le logiciel, et partant de là, quel logiciel utiliser, puisqu'il y a différents CACDAS, et que je crois, moi, que chacun de ces CACDAS, chacun de ces logiciels embarque une méthodologie différente. J'essaierai d'illustrer ça, peut-être a posteriori d'ailleurs, peut-être à l'issue de cette présentation, en vous montrant rapidement ma base de données sur laquelle j'ai travaillé. Et j'essaierai d'illustrer ça en vous parlant des moult erreurs, moult travers et impasses dans lesquelles je me suis égaré au cours de ces 7 années, l'objectif étant que, dans la mesure du possible, je vous économise ce temps et que vous-même ne vous trouviez pas attrapé par les mêmes choses trappes. C'est l'objectif de cet atelier. Alors tout d'abord donc les méthodes informatisées d'analyse de données qualitatives. En ce qui concerne l'analyse des larges corpus textuels, on se confronte, à tout le moins en sciences sociales le plus souvent, à deux méthodologies différentes, ou du moins deux types d'outils différents, les outils lexicométriques d'une part, et le codage informatique de données d'autre part. Quand on parle de CACDAS, c'est tout simplement des outils d'analyse de données qualitatives par opération de codage. En précisant qu'il y a d'autres options disponibles, je vais, si vous le voulez bien, brièvement envisager la lexico et les CACDAS parce que ce sont les deux outils les plus utilisés. Il y a d'autres options disponibles, certaines qui, je crois, sont plutôt marginales. C'est notamment le cas de l'analyse de corpus de texte par dictionnaire préconstitué. C'est ce que fait très bien un petit utilitaire désormais gratuit, enfin un logiciel, pas un utilitaire, un petit logiciel désormais gratuit qui s'appelle TROP, qui analyse de vastes corpus textuels par des dictionnaires préconstitués, étant entendu qu'on peut soit utiliser les dictionnaires qu'il y a dans la machine, dans le logiciel, auquel cas ça s'appelle une boîte noire. Le logiciel sort de formidables graphiques, on ne sait absolument pas d'où ça vient, comment ça a été fait. Par contre, pour une présentation de colloque, évidemment, c'est très recommandé. Soit on constitue nous-mêmes nos propres dictionnaires, auquel cas c'est terriblement chronophage. Je n'ai pas connaissance de nombreuses recherches extensive, approfondie, qui a été menée sous TROP. En revanche, ça peut être un outil exploratoire intéressant, ou à défaut d'être intéressant, au moins il est enthousiasmant. Voilà, ça sort des beaux graphiques. Donc je vous le mentionne, d'autant qu'il est gratuit. Le machine learning, c'est quelque chose de beaucoup plus expérimental. Je connais une recherche qui a été menée en utilisant ceci. C'est terriblement enthousiasmant. Je crois que ça réclame des compétences techniques qui, en tout cas, outrepassent de très loin les miennes et je crois à celles de la majorité des chercheurs en sciences sociales. C'est simplement de la programmation, ça consiste à éduquer une machine à discriminer automatiquement des textes dans une catégorie ou dans une autre. Pour le résumer simplement, le machine learning, c'est ce que fait votre filtre anti-spam. Donc votre filtre anti-spam, au début, il est idiot au dernier degré, et puis vous lui apprenez, au fur et à mesure, en classant tel mail comme spam et tel mail comme non-spam, vous lui apprenez à discerner, en se fondant sur des indices lexico-spécifiques, ou grammaticaux d'ailleurs, vous apprenez votre filtre anti-spam à discerner quels sont les bons des mauvais emails. On peut se servir d'outils analogues pour mener de la recherche en sciences sociales sur des corpus de texte élargis. Donc les approches sont nombreuses en réalité, et c'est pas parce que la plupart du temps on utilise soit la lexico soit le CACDAS que ces deux approches sont les seules. Je mentionne enfin qu'on va parler beaucoup de textes, je dirais quasi exclusivement de textes dans cet atelier. C'est comme ça que moi j'ai utilisé le CAGDAS. C'est comme ça que l'immense majorité, je crois, des chercheurs, tout le monde en sciences sociales, utilisent les CAGDAS. Ces logiciels ont été faits pour traiter tout type de matériaux qualitatifs. Et donc, dans Atlas TI, dans NVivo, on peut mettre du texte, bien sûr, on peut aussi mettre des images, et on peut mettre des documents audiovisuels, soit des bandes audio seules, soit des vidéos. L'intérêt étant, bien sûr, d'avoir derrière un projet, mais on va y revenir, un immense projet de recherche dans lequel on code, à l'aune, possiblement de la même grille de codage, des matériaux de nature différente, certains étant textuels, d'autres étant iconographiques ou audiovisuels. Ces précisions préalables étant apportées, un mot sur donc ces deux méthodes. Alors, en ce qui concerne la lexicométrie, je vais aller vite, non parce que c'est pas le sujet du jour, mais aussi parce que c'est un outil auquel j'ai été formé mais que je n'ai jamais utilisé. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en sont déjà servis, auquel cas ils seraient sans doute plus à même que moi d'apporter des compléments. Mais je crois que c'est intéressant pour bien montrer la différence entre les deux. En sciences sociales, le logiciel qu'on utilise le plus couramment pour la lexico, c'est Alceste. Alors, que fait un logiciel de lexicométrie? Il commence par vous lématiser votre corpus textuel, c'est-à-dire qu'il prend vos entretiens, vos débats parlementaires, vos comptes rendus d'ethnographie, qui sont des matériaux textuels qui font sens, et il vous les transforme en une espèce d'immonde globibulga en ramenant chaque mot à sa racine, à son lemme de base. Donc il ramène tous les verbes à l'infinitif, tous les noms au singulier, les pronoms, je crois qu'il ne les touche pas, ou peut-être qu'il les ramène tous au singulier... au singulier masculin, bon, vous avez compris. La lexicométrie ramène chaque lexique, chaque terme à son lemme de base. Ensuite, il vous découpe votre texte en unités de contexte élémentaires, pas exactement une phrase, mais presque. En fait, il découpe le texte en séquences de 4, 5, 6 mots. C'est à vous de fixer cette limite. Et enfin, c'est là où ça devient intéressant, la lexicométrie, qui n'est pas simplement un comptage des termes et un comptage des mots. C'est pas simplement combien de fois dans un discours on emploie le mot nation, combien de fois on emploie le mot patrie. Ça, c'est de la lexicographie et Word le fait parfaitement bien. La lexicométrie fonctionne à partir d'une base de classification descendante hiérarchique. C'est-à-dire que Alceste, votre logiciel de lexico, va dégager des univers de sens. Il va dégager des mots qui sont très souvent présents ensemble dans les mêmes unités de contexte élémentaires. Et il va différencier ces familles de sens, ces mots que l'on retrouve souvent évoqués ensemble, de mots qui apparaissent beaucoup moins souvent avec ces premières familles. Donc vous avez, in fine, une classification en différentes classes, en différents univers de sens, ça c'est la terminologie d'Alceste, et ça vous permet de distinguer comment est-ce que dans votre corpus, quand on parle de tel thème, de tel mot, eh bien ça attire plutôt tel autre thème ou tel autre mot, et c'est des univers de sens que l'on retrouve très peu employé avec d'autres termes ou d'autres mots. L'intérêt derrière étant qu'on peut appliquer des variables au discours ou aux entretiens, et ça permet de dire que une belle analyse lexicographique qui a été réalisée, je crois, sur un corpus de débat parlementaire, sur les corpus, la discussion des projets de loi d'abolition de la peine de mort, il y en a eu, je crois, 4 dans l'histoire de France depuis la Révolution française, on a les retranscriptions de ces débats, et on peut faire une énorme lexicométrie à partir de là, ce qui vous permet de voir qu'on a différents univers de sens qui se dégagent à travers les périodes, certains étant communs tout au long de la période, d'autres au contraire étant présents, alors qu'ils ne l'étaient pas quelques années avant, et ils ne le seront pas quelques décennies plus tard. Donc voilà ce que vous fait la lexicométrie. Alors, présentation un peu simpliste, c'est toujours un peu benêt de présenter les choses comme ça, mais je crois qu'en l'occurrence, ça dit quelque chose d'intéressant. Quels sont les avantages, les inconvénients et les risques d'une analyse lexicométrique? Le premier avantage, c'est le caractère exploratoire de l'analyse. Une analyse lexico, ça va vite, relativement vite, parce qu'il faut préparer le corpus avant, donc il y a toujours du travail de petite main au préalable, mais une fois que le corpus a été préparé, c'est aussi rapide que de cliquer sur un bouton et d'avoir le résultat. Ça va vite, et ça permet d'avoir un point de vue exploratoire sur un corpus que l'on connaissait bien, parfois trop bien, qu'on a lu plusieurs fois, parfois trop de fois, sur lequel il est impossible d'avoir un œil neuf, et la lexicométrie peut vous aider tout d'un coup à vous rendre compte que tiens, bah, dans cet univers de sens, je vois deux thèmes, deux notions, deux concepts qui s'attirent, j'avais jamais remarqué ça, et pourtant, en y repensant, ça fait sens, et ça peut vous permettre d'émettre de nouvelles hypothèses qui vont redonner un second souffle ou apporter du neuf à votre étude. C'est une analyse qui est complètement automatique, passer cette phase un peu fastidieuse de préparation du corpus, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps, et ça permet de se revendiquer, c'est moi qui parle, ça permet de se revendiquer d'une certaine objectivation. C'est-à-dire que c'est pas vous qui dites « j'ai vu ça », c'est le logiciel qui montre que tel terme statistiquement s'attire les uns aux autres. Et alors moi je crois, on va y revenir, je crois qu'en termes heuristiques, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose, en termes de communicabilité des résultats et de communicabilité sur leur fiabilité, je crois que là pour le coup l'avantage est certain. C'est le troisième point, la lexicométrie vous sort de formidables graphiques, de très belles analyses factorielles, de magnifiques ensembles de termes. Après, on peut faire des visualisations avec des nuages de termes, c'est beau, et en colloque, évidemment, ça vous assure un succès absolument certain. Il y a évidemment des inconvénients au travail lexicométrique. Le premier, c'est que la lexicométrie travaille uniquement sur des unités lexicales. Votre logiciel lexicométrique, il est idiot, il ne sait pas ce que les termes signifient, il ne peut pas différencier les thèmes. Tout ce qu'il voit, c'est des mots, et ce qu'il repère, c'est quand les mots s'attirent les uns aux autres. Donc, première chose, votre logiciel lexico ne gère pas la polysémie. Dans certains cas, on peut forcer le logiciel lexicométrique à prendre en compte la polysémie. Si vous travaillez par exemple sur les discours du Parti communiste entre 1970 et 1990, il est bon d'indiquer au logiciel que Georges marchait, ça n'est pas une conjugaison du verbe marcher. Parce que pour le logiciel, marcher, c'est le verbe marcher. Bon, mais le problème, c'est que des polysémies, on en a un très grand nombre dans la langue française, entre nous avions et des avions, c'est pas la même chose. Alors si vous travaillez sur le discours de François Hollande qui va vendre des rafales à l'Inde, effectivement, c'est intéressant de lui indiquer, mais connaître à l'avance toutes les polysémies qu'il va y avoir dans votre corpus, et vous ne pouvez pas savoir a priori s'il y en a qui vont être signifiantes. Donc le risque, c'est que à travers cette non-gestion de la polysémie, vous loupiez éventuellement des termes qui s'attirent. Bon, en pratique, à part, encore une fois, cas très particulier, en pratique, le risque est assez faible. En revanche, le logiciel passe tout à fait à côté, bien sûr, des expressions. Pour lui, un manche à balai, c'est manche et balai, et il ne repère pas du tout que c'est une même expression. Et évidemment, aucun travail sur les connotations. Alors, vous pouvez décider que ce n'est pas ce qui vous intéresse, vous pouvez décider que c'est, au contraire, c'est mon cas, une dimension du discours sur laquelle vous souhaitez travailler, auquel cas la lexicométrie, évidemment, ignore ça totalement. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser une grille analytique que vous avez plaquée sur votre lexicométrie, si ce qui vous intéresse. Alors moi, je parle de mon point de vue d'analyste du discours. Si ce qui vous intéresse, c'est par exemple l'analyse de récit. Si ce qui vous intéresse, c'est une analyse thématique. Alors l'analyse thématique, on peut la retrouver à travers les termes, avec des approximations du coup. Mais si ce qui vous intéresse, c'est l'analyse de récit, les actants, les actés, la lexicométrie est évidemment une méthode tout à fait inappropriée. Enfin, le logiciel reste une boîte noire. Alors c'est peut-être ma formation chez les historiens et mon point de vue un peu hypercritique qui me fait dire ça, mais je pense pas du tout être le seul en sciences sociales à avoir ce point de vue-là. Le logiciel sort des choses et on sait formellement, c'est pas ce qui s'est passé. On sait derrière qu'il y a eu des opérations statistiques, on sait comment ça fonctionne, mais vous ne savez pas exactement comment les recoupements ont été faits. Je vois deux risques à l'analyse lexicométrique. Le premier risque, alors, c'est moi qui parle en gardant en tête que moi j'ai pas fait ce type d'analyse, mais j'ai discuté avec un certain nombre de chercheurs qui l'ont fait, et les plus honnêtes confessent que bien souvent la lexicométrie se borne à confirmer des intuitions. C'est-à-dire que si vous rentrez dans votre corpus en le connaissant très bien, en l'ayant déjà lu un certain nombre de fois, votre lexicométrie va vous sortir de fabuleux nuages de termes, de fabuleuses classifications hiérarchiques, mais au fond, ça n'est que la confirmation d'intuitions que vous aviez déjà eues en lisant votre corpus. Et il semblerait que pour que la lexico sorte réellement des hypothèses complètement neuves, qu'elle vous sorte des résultats qui étaient totalement inédits, dont vous n'aviez pas eu l'intuition, il semblerait qu'il faille travailler sur de très très larges corpus. Et c'est là qu'on arrive au deuxième risque de la lexicométrie, c'est la création d'artefacts. Vous n'êtes pas à l'abri, et c'est même pas que vous n'êtes pas à l'abri, c'est que tous les chercheurs rigoureux qui ont travaillé sur de la lexico vous racontent des anecdotes où ça leur est arrivé, d'avoir des attractions de termes qui sont statistiquement significatives, mais qui relève en fait du hasard de la distribution des termes. Et donc, quand un chercheur connaît très bien son corpus, il est capable de vous dire « Ah bah oui, ok, je vois pourquoi, parce que c'est dans telle expression, ou parce que, effectivement... » Mais, en termes de sens, ça n'est pas signifiant, ça n'est pas intéressant. Et c'est là qu'on rentre dans le dilemme de la lexicométrie. Je pense qu'on peut s'en débrouiller, mais il faut tout de même en avoir conscience, c'est que soit on connaît très bien son corpus, et dans ce cas-là, le risque, c'est d'avoir une lexicométrie qui va surtout vous servir à communiquer vos résultats et à prouver avec des chiffres ce que vous seriez borné à dire « on voit bien que ». Vous discutez de savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas, je laisse la question ouverte. Soit votre corpus est tellement grand que de toute façon il n'est pas lisible ou pas appréhendable par un cerveau humain. Dans ces cas-là, oui, votre lexicométrie va vous permettre d'appréhender votre corpus, mais le risque, c'est de créer des artefacts que vous ne pourrez pas repérer si vous ne connaissez pas suffisamment bien le corpus. Je laisse cette question ouverte. Vous comprendrez, et je le reconnais bien humblement, que moi, après, c'est pas une manière de travailler qui moi me convient et moi m'intéresse, donc il y a sans doute un peu d'orientation dans ma manière de présenter les choses, et je serais intéressé que certains d'entre vous ont travaillé sur la lexico, qu'on en rediscute, ce qui permettrait sans doute de nuancer un peu mon point de vue sur l'apport des CACDAS par rapport à la lexico. Je crois aussi que c'est bien de taper un peu sur la lexicométrie pour une raison simple, c'est que c'est, en tout cas en France, la méthode d'analyse textuelle archi-dominante, bien plus que des CACDAS, et qu'on se pose jamais mieux qu'en s'opposant, donc voilà qui est fait. Parlons un peu donc du codage des données. Alors les CACDAS, on a deux candidats principaux au titre de meilleurs CACDAS de l'univers, Atlas TI et NVivo. Je rentrerai dans un instant sur la différence entre ces deux logiciels. CACDAS pour Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, logiciel d'analyse qualitative de données assistées par ordinateur. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que le nom lui-même est une immonde supercherie, puisque la lexico, ce n'est rien d'autre qu'un logiciel d'analyse informatisée de données, enfin qualitative de données assistées par ordinateur. Les CACDAS, on voit ici, hein, on commence déjà à saisir leur prétention un peu hégémonique, et il y a ça quand même dans les CACDAS. Il y a une, on pourra en discuter aussi, mais il y a une sorte de prétention hégémonique qu'on retrouve bien dans ce terme. Dire aussi, sous la forme de l'anecdote, mais je pense que ça fixe bien les choses, que les CACDAS, c'est un logiciel qui reste relativement nouveau, encore que pas tant que ça, par contre, qui reste relativement peu pensé. Il y a peu de publications, il y a peu de recherches méthodologiques sur les CACDAS. Ça se reconnaît à une chose, c'est que le terme lui-même n'est pas fixé. Et donc CACDAS, alors vous allez me dire, on coupe les cheveux en quatre, mais parfois le A, on l'utilise pour Assisted, on trouve aussi Computer Aided, Qualitative Data Analysis Software, parfois le S final et le S de Software, et parfois on considère que c'est le S de Analysis, le dernier S de Analysis. Alors vous allez me dire, au fond, tout ça ne change rien, je suis d'accord avec vous, mais quand on a comme ça un acronyme qui n'est pas fixé et qui varie d'un papier à l'autre, c'est, je crois, un bon indice du fait que le logiciel reste assez peu pensé. Dans les travaux méthodologiques. Qu'est-ce que c'est qu'un CACDAS ? Un CACDAS, pour le décrire, on le décrit par ce qu'il fait. C'est un logiciel qui va vous permettre de faire plein de choses. La première, ça va vous permettre de coder des données, d'affecter un code que vous allez créer vous-même à un morceau de données, que ce soit un segment de texte, et le segment de texte, c'est vous qui décidez, ça peut être un mot, ça peut être une lettre, ça peut être une phrase, ça peut être un paragraphe, ou ça peut être un document entier. Mais ça peut aussi être un passage sur une bande audio ou sur une vidéo, ou ça peut être une zone sur une image. Donc vous allez coder un segment de données qualitatives auquel vous allez affecter un ou plusieurs codes que vous allez créer vous-même. Derrière, le CACDAS permet de rechercher du contenu, de mettre en liaison les données, que ce soit au travers des codes, il suffit de coder plusieurs segments de données sous un même code pour avoir mis ces données en liaison, ou bien de créer des liens hypertextes d'un morceau de texte vers un autre. Derrière, évidemment, de faire des recherches sur les codes, ce qui va faciliter l'indexation ou l'étiquetage de votre corpus. On peut ensuite faire des requêtes et des tris pour voir si certains codes émergent plutôt ensemble ou plutôt séparément. Certains codes émergent plutôt dans certains types de données ou dans certaines catégories d'entretien ou catégories de discours que dans telle autre. On peut mettre en réseau ces codes, on aura peut-être l'occasion un petit peu d'en parler. Là, on trouve déjà une épistémologie embarquée qui est celle de la Grounded Theory. Et enfin, j'aurais tendance, si je veux être un peu provocateur, à dire surtout, le CACDAS est aussi un formidable éditeur de texte, un traitement de texte, puisqu'il vous permet d'annoter vos données et d'écrire des bouts de mémo, des bouts de réflexion, voire des bouts entiers d'articles ou de thèses. Au fond, le CACDAS fait ce que vous faites tous déjà, en tout cas pour ceux d'entre vous qui travaillez déjà avec des matériaux qualitatifs, c'est-à-dire que c'est un stabilo à une infinité de couleurs. Donc plutôt que de stabiloter votre texte en 5 couleurs pour les 5 thèmes que vous voulez y repérer, vous allez pouvoir affecter une infinité de codes pour une infinité de thèmes, mais ça n'est rien d'autre que de passer du stabilo sur son texte. Les outils de mémo ou d'annotation, ça n'est rien d'autre que de coller un post-it sur son texte papier ou d'ouvrir un fichier Word à côté pour y noter vos réflexions. Quant aux requêtes et au tri entre les codes, là pour le coup c'est la plus-value du CACDAS, encore que rien ne vous empêchait de faire ça sous Excel en comptabilisant avec des petits bâtons ou... Bon, donc vous voyez, le CACDAS fait ce que vous faites déjà. il annote, il code, il catégorise. C'est un outil de réflexion. Sauf qu'il fait tout ça dans un seul et même logiciel, et il fait tout ça sur des corpus qui peuvent être vastes, voire très vastes. Et l'intérêt principal du CACDAS, ça va être d'intégrer toutes ces opérations qui font partie du quotidien du chercheur dans un seul et même logiciel, une seule et même interface, pour faciliter l'accès aux données. Au fond, c'est ce que l'on va voir dans un instant. Est-ce que c'est vaguement clair ce que c'est qu'un CACDAS ? Ok, on va rentrer dans le détail de toute façon. Alors là encore, hein, ma slide un peu benêt, mais je trouve que bon, ça dit bien ce que c'est. Les avantages, les inconvénients et les risques du traitement par CACDAS. Les avantages, pour le coup, la liberté totale du chercheur. Comme c'est vous qui codez, c'est vous qui décidez quelle grille, quel code, quand les ajouter, quand les retirer, quand les rassembler, quand les diviser. Vous avez la liberté totale dans le choix de votre grille. Vous voulez faire une analyse de récit, c'est possible. Vous voulez travailler sur les connotations, c'est possible. Vous voulez travailler sur les polysémies, si vous parlez français, a priori, il n'y a pas de souci. Bref, le logiciel n'est absolument pas limitant dans les grilles d'analyse qu'il impose ou qu'il présuppose. Ce qui permet une grande flexibilité méthodologique, et ça on va le voir dans un instant, on peut utiliser un seul et même outil, le CACDAS, pour faire de très nombreuses choses différentes et y déployer des méthodologies différentes. Ma thèse, c'est que ces méthodologies, elles ne sont pas simplement différentes, elles sont divergentes, voire contradictoires. C'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention dans quelques instants. Et enfin, ce qui pour moi est un avantage pour quelqu'un comme moi un peu obsessionnel et hypercritique, c'est un avantage de l'outil. Aucune automatisation, ou presque. Il y a du codage automatique dans du CACDAS. D'une manière générale, ça marche très mal et ça n'est applicable qu'à des cas très particuliers. Donc ça va vous faire gagner un tout petit peu de temps. Moi par exemple, pour prendre un peu d'avance, dans mes débats parlementaires, j'ai codé ce qu'on appelle les émotions parlementaires, c'est-à-dire les rédacteurs des comptes rendus qui notent les émotions des députés ou des sénateurs qui écoutent les discours, donc les clapons de pupitre, les huées, les oppositions, les applaudissements. Bon, toutes ces mentions, applaudissements sur les bancs des députés UMP, ces mentions sont des mentions qui sont normées, qu'on retrouve toujours de la même manière dans les débats. J'ai codé ça de manière automatique. On peut écrire une routine pour que ce soit codé automatiquement. D'une part, la routine, elle n'est pas si simple que ça à écrire. Très souvent, on est obligé de recorriger derrière pour que le texte sélectionne exactement ce qu'on veut. Et sorti de ces mentions normées, le codage automatique ne fonctionne pas. Donc, ça, pour un hypercritique obsessionnel avec quelques angoisses de mal faire, c'est absolument formidable. Vous contrôlez absolument tout ce qui se passe dans le logiciel. Rien ne vous échappe et à aucun moment, le logiciel n'est une boîte noire. Évidemment, ça a l'inconvénient de son avantage, aucune automatisation. Travailler sous un CACDAS, c'est très long. Je dirais même très très long. Et plus votre texte est grand, plus votre corpus plutôt est étendu, plus l'intérêt du CACDAS est grand. Mais plus votre corpus est étendu, plus le CACDAS est chronophage. J'ai dit que le CACDAS c'était un travail chronophage. Je pourrais ajouter, et je pense que c'est l'expérience de tous ceux qui ont un peu travaillé sous un CACDAS, c'est pas simplement long, c'est aussi particulièrement déprimant. Inquiétant et je crois que on se confond tous à une angoisse de mort et d'abandon à un moment donné ou à un autre du codage quand on en est à notre 2000e heure de codage et qu'on sait toujours pas, absolument pas, à quoi ça a servi et à quoi ça va servir et à la fin ça sert à quelque chose. J'ai un peu anticipé sur ma conclusion, mais à la fin ça sert à quelque chose, mais on n'en a pas toujours conscience dans le courant du processus. Donc non seulement c'est long, mais il faut gérer la pression psychologique qui va avec. Cela étant, alors moi j'ai du mal à, comme c'est à peu près la seule chose que je sais faire, je sais pas comment ça se passe quand on fait autrement, j'ai aussi l'intuition que de toute façon dans toute recherche il y a un moment donné où c'est long et c'est déprimant, donc finalement est-ce vraiment un inconvénient du logiciel ou du métier? On peut poser la question. Ça c'est un véritable inconvénient, le CACDAS, la communicabilité est très minimale. Pas toujours, alors vous pouvez sortir de formidables stats avec les CACDAS, on va y venir, vous pouvez sortir de magnifiques cartes heuristiques qui, là encore, feront votre succès assuré lors des colloques des journées d'études. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je dirais même que ce n'est pas souvent le cas et que l'intérêt du CACDAS n'est pas là. Et au fond, quand vous avez travaillé sur CACDAS, vous êtes contraint de dire « bah voilà, j'ai utilisé un CACDAS, ça a été long et difficile, et j'en ai retiré de formidables observations, la preuve, je vois que... » Et donc, revoilà cette communicabilité des résultats qui est fondée sur une impression qui peut parfois paraître, aux yeux des chercheurs qui ne sont pas qualitativistes, comme impressionnistes, alors que c'est simplement le lot du chercheur qui travaille sur un matériau qualitatif. Donc la communicabilité des résultats, pour le dire simplement, est moins sexy que ce qu'on peut avoir avec de la lexico ou avec trop. Les risques, ils sont immenses, je crois. On peut se planter avec un CACDAS et on peut se planter en beauté, je le sais d'expérience pour l'avoir fait à une reprise et demie. Le risque, c'est la confusion méthodologique, je vais venir dans un instant. On peut faire plusieurs choses dans un CAC-DAS, c'est ce qui fait la beauté du logiciel. Si on veut toutes les faire en même temps, le logiciel devient un enfer dans lequel on s'enferme sans aucune possibilité d'en sortir. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc, je crois qu'il faut, quand on rentre dans un CAC-DAS, être extrêmement clair sur la méthodologie que l'on souhaite appliquer et dans laquelle on souhaite s'impliquer, et ne surtout pas en déroger sous risque de se perdre dans un labyrinthe absolument infini. C'est le deuxième risque, se perdre dans le codage. J'ai dit que le codage était une opération longue, elle peut devenir non seulement longue, mais interminable, auquel cas le CAC-DAS perd tout son attrait. Voilà en quelques points les forces et les attraits du logiciel, et aussi ce à quoi il faut prendre garde, et sur lequel je vais revenir dorénavant. Donc c'est mon grand 2, c'est mon deuxième point, pour essayer de vous montrer qu'au sein des CAC-DAS, au sein d'un même outil, on trouve une tension méthodologique qui pour moi est intrinsèque à l'outil lui-même. C'est la tension entre d'une part l'analyse inductive, héritière de la Grounded Theory, j'ai bien dit héritière puisque les CAC-DAS sont, on va le voir, des outils qui ont été faits pour déployer une analyse par théorie ancrée dure, oserais-je le terme radicale, dans la droite ligne de... Anselm Strauss et oui voilà, dans la droite ligne de Glaser et Strauss, la version la plus irréductible de la grande théorie, mais vous allez voir qu'on peut aussi déployer une analyse par théorie ancrée beaucoup plus souple et beaucoup plus inspirée de ce que proposent Corbin et Strauss dans la révision de la théorie ancrée. Mais les CAC-DAS sont aussi l'outil recommandé, l'outil spécifique, enfin, l'outil parfait pour déployer une analyse déductive de contenu. Je vais essayer de vous présenter ces deux approches, comment utiliser le logiciel dans l'un et dans l'autre des cas, et ensuite je vous expliquerai pourquoi, selon moi, on ne peut pas et on ne doit pas faire les deux en même temps dans un même projet de recherche. Alors voyons donc la théorie ancrée, donc avec deux ouvrages fondateurs, l'ouvrage de Glaser et Strauss de 67, la découverte de la théorie ancrée, traduit en français il y a quelques années, où on a la théorie ancrée dans une version radicale, où en fait finalement, là encore, hein, on ne se pose jamais mieux qu'en s'opposant, et quitte à s'opposer, autant le faire de manière frontale. Donc on avait un acte fort contre la méthodologie hypothético-déductive qui à l'époque était, à tout le moins dans la sphère anglo-saxonne, était archi-dominante. Cette optique de théorie ancrée qui a été, je crois, considérablement nuancée et assouplie dans la révision par Corbin et Strauss en 90, les fondements de la recherche qualitative, et au fond, dans l'un et dans l'autre cas, les CAC-DAS, vous allez le voir, sont particulièrement bien adaptés. Les principes de la théorie ancrée, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas tout à fait familiers de cette approche, c'est de rompre avec l'approche déductive. Finalement, la théorie ancrée, c'est avant tout le refus d'une démarche hypothético-déductive qui analyse la réalité sociale, qui analyse les faits sociaux, qui analyse les données, au prisme de théories étudiées dans l'abstraction. Et l'objectif des inventeurs de la théorie ancrée, c'était de rompre avec cette démarche qui consistait à élaborer des hypothèses in abstracto, a priori, et puis ensuite déployer toute une série de recherches empiriques pour vérifier si l'hypothèse se vérifie dans tel contexte et tel autre. Au contraire, la théorie ancrée recommande de partir des données, de fonder toute sa recherche, d'ancrer toute sa recherche dans les données empiriques, sans grille de lecture a priori, sans catégorie préétablie, sans hypothèse préétablie, pour, à partir des données, faire émerger de la connaissance, faire émerger ce que eux appellent de la théorie. Le problème étant que le mot de théorie qu'on pourrait discuter est à la fois peut-être un peu trop exigeant et un peu trop effrayant. En fait, finalement, c'est créer de la connaissance et créer de la montée en généralité à partir de... À partir de données empiriques. Il y a quelque chose, mais c'est moi qui parle, auquel moi j'ai été très sensible dans cette approche, c'est que la théorie ancrée replace finalement les notions de plaisir et de création au centre de la recherche, et je crois qu'il y a ça dans le livre originel de Glaser et Strauss, et on le trouve encore plus chez Strauss et Corbin, c'est finalement rompre avec cette idée du travail de recherche comme un travail besogneux où on applique heure par heure, jour après jour, mois après mois, une grille de lecture qu'on a préétablie pour vérifier si on s'était planté ou non. Et au contraire, ils conçoivent l'acte de la recherche comme un acte de création intellectuelle. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et c'est ce qui m'a incité à m'inscrire dans cette, dans cette perspective, ou dans ces pas du moins, quand j'ai commencé à travailler en sciences sociales. Alors, les CAGDA sont des outils particulièrement adaptés pour travailler en théorie ancrée. Parce qu'ils permettent, et c'est tout leur paradoxe, une relation immédiate, sans médiation à ces données. J'aimerais insister là-dessus, car c'est tout le paradoxe, tout le dilemme, c'est pas un dilemme, c'est vraiment un paradoxe, tout le paradoxe de ces outils, qui sont une interface supplémentaire, c'est-à-dire que là où avant vos yeux n'étaient séparés de vos données par rien d'autre qu'un papier et un crayon, là vous rajoutez de l'interface, vous rajoutez de la médiation de l'écran, du clavier, de la souris, de la pénibilité liée à l'apprentissage d'un outil informatique, les plantages, Windows qui ne veut pas démarrer. Vous rajoutez de la médiation par rapport à vos données. C'est chose idiote que de le rappeler, mais je crois que ça fait partie aussi de l'outil. Donc vous rajoutez une interface supplémentaire. Le paradoxe, c'est que c'est cette interface supplémentaire qui va vous permettre d'établir une relation immédiate, sans médiation à vos données. Le principe même du CAGDA, c'est qu'à aucun moment vous ne perdez vos données de l'œil, et ça n'est pas une métaphore. Un CAGDA, je vous montrerai dans un instant à quoi ça ressemble, vous avez en permanence ouvert sous les yeux au moins une demi-fenêtre, ou au moins la moitié de votre fenêtre, qui est consacrée à votre texte, à votre vidéo, à vos images, que vous ne quittez jamais des yeux, vous êtes en permanence en contact avec vos données. Et tous les outils du chercheur, toutes les opérations de la recherche, se déroule avec les données sous les yeux. Qu'il s'agisse de l'annotation, ou qui se fait avec d'un côté les codes, de l'autre côté les données, qu'il s'agisse de la réflexion, puisque quand vous ouvrez une fenêtre pour rédiger un mémo, vous avez les données derrière, il vous suffit de bouger un peu la fenêtre pour retrouver vos données. Presque même de la rédaction, puisqu'on pourrait, hein, si on était un peu maximal et qu'on avait un point de vue un peu à maxima, on pourrait presque rédiger son article ou sa thèse dans un CAGDA, et on pourrait le faire avec en permanence les données sous les yeux. Donc le principe du CAGDA, c'est de vous permettre de mener toutes vos opérations de recherche dans un même logiciel, avec les données en permanence sous les yeux, et sans plus avoir à jongler entre soit d'un côté vos 5000 pages de texte, et puis les post-it qui s'entassent, le cahier, le crayon, la gomme, le critérium qui n'a plus de 1000. Ou au contraire, de jongler, ce qu'on fait tous en réalité aujourd'hui sur notre ordinateur, avec d'un côté nos textes, de l'autre côté nos notes, ici notre feuille Excel sur laquelle on a essayé vaguement de compter un petit peu, là un autre fichier Word ouvert où on a commencé à rédiger, et finalement on s'en sort plus et ça devient impossible de jongler avec ça. Les CAGDA intègrent toute la recherche dans une seule et même interface et permettent cette relation immédiate aux données. Et puis le principe de la théorie ancrée, donc, c'est de partir des données, d'affecter des codes, et progressivement, au fur et à mesure de la lecture, au fur et à mesure des regroupements de catégories, des divisions de catégories, d'élaborer progressivement une grille de lecture, une grille d'analyse avec des catégories qui deviennent de plus en plus robustes, jusqu'à ce que ces catégories vous semblent résumer quelque chose de la réalité sociale que vous cherchez à décrire. Et c'est là où, pour la grande dite théorie, pour la théorie ancrée, on a fondé de la connaissance. Et le codage axial, le codage sous un CAGDA permet ces opérations-là, puisqu'il vous permet d'affecter des codes très facilement, de créer des nouveaux codes si vous voyez une nouvelle catégorie émerger, et ensuite très facilement de regrouper ces codes ensemble, soit formellement quand vous décidez que finalement ce que vous pensiez être deux catégories deux dimensions n'en sont qu'une seule, soit de les diviser quand vous aviez regroupé sous une seule et même dénomination des choses qui relèvent de deux réalités sociales légèrement différentes. Toutes ces opérations sont tout à fait simplifiées par le logiciel, et ensuite, à la fois par les possibilités d'annotation et par les possibilités de rédaction, vous avez cet idéal de la grande théorie d'une recherche qui se mène en même temps que l'analyse des données, et d'une élaboration conceptuelle et intellectuelle qui n'est pas séparée de la phase d'analyse des données. Donc, ce sont des outils qui ont été designés, qui ont été forgés pour l'analyse inductive, à tel point que Atlas TI, que je vous présenterai un tout petit peu plus en détail tout à l'heure, Atlas TI a été réalisé en consultant avec l'aide de Corbin et Strauss. Donc là, on a explicitement, dans l'histoire même de la réalisation du logiciel, on voit cette filiation avec la théorie ancrée. Mais les CAGDA permettent également, donc voilà, le travail de catégorisation, mise en théorisation est fluidifié et simplifié en permettant aux chercheurs de ne jamais perdre le contact avec ces données. C'est ce que j'ai passé une demi-heure à expliquer. Donc, ça allait beaucoup plus vite comme ça. L'analyse déductive de contenu, car oui, une fois qu'on a dit tout cela, les CAGDAS permettent aussi de mener une méthodologie tout à fait différente en ce qu'elle est brutalement, enfin elle peut être brutalement déductive. C'est l'analyse déductive de contenu avec le livre canonique de Laurence Bardin, 1977, que presque tout le monde cite, que peu de gens lisent, moi le premier. Les principes de l'analyse déductive de contenu. Plutôt que d'élaborer une grille de lecture, une grille de catégorie au fur et à mesure de la lecture et de l'analyse des données, au contraire, on part avec une grille de lecture élaborée a priori, qui peut être n'importe quoi. Alors, le classique archi-paradigmatique de l'analyse de contenu, c'est l'analyse thématique de contenu, ce qui marche remarquablement bien via Corpus de Presse, par exemple. On veut savoir, sur les 6 mois précédant la campagne présidentielle de 2002, combien de fois la question de l'insécurité a été évoquée, combien de fois les questions économiques ont été évoquées, et de quelle manière la question de l'insécurité est évoquée. Est-ce que c'est par le prisme de statistiques? Est-ce que c'est par le prisme d'anecdotes? Est-ce que c'est par le prisme de témoignages? Bon. Donc là, vous élaborez a priori votre grille thématique, avec laquelle vous allez derrière brutalement coder votre recherche. Ça peut être une grille thématique qui a été élaborée a priori, d'ailleurs. Hein. C'est le cas pour le projet Agenda qui est mené en France depuis longtemps. Je sais notamment au CEVIPOF puis au CE sur les projets de loi. Mais on peut aussi appliquer des grilles qui n'ont rien de l'analyse thématique, pour une analyse que je connais un peu, l'analyse de récit, qui peut produire des connaissances surprenantes, où on qualifie, on recherche les structures de récit sous-jacentes à différents matériaux qualitatifs. Et donc là, on va rechercher qui est l'actant, qui est l'actant, qui est l'acté, qui est l'objet de valeur, quel est l'élément perturbateur. Et ça permet comme ça de dégager, de faire de magnifiques analyses de storytelling, notamment dans du discours politique. Donc toutes ces grilles-là sont des grilles qui sont établies a priori et que l'on traduit en une série de codes, des codes que l'on applique brutalement à l'ensemble du corpus, le corpus lui-même que l'on structure par une série de variables. Pour reprendre l'exemple classique de l'analyse du corpus de presse, ma série de variables, ça va être le média télévisuel versus média papier, la chaîne de télé, le moment, est-ce que c'est le journal de 13h, le journal de 20h, est-ce que c'est un journal du matin, un journal du soir, bref. Je code systématiquement l'ensemble du corpus, donc là on en passe par une opération qui est absolument interminable, insupportable et qui requiert absolument zéro capacité cognitive et intellectuelle, enfin cognitive si mais intellectuelle non. Et derrière, on mène une analyse qui est statistique pour savoir comment se répartissent les différents codes que l'on a codés de manière systématique. Ce qui est intéressant, c'est que finalement l'analyse de contenu, appliquée comme ça un peu brutalement, ça n'est rien d'autre que le traitement quantitatif d'un matériau qualitatif. C'est juste ça que l'on fait. Et donc là, on est bien dans une démarche hypothético-déductive, puisque la plupart du temps, quand j'applique une analyse de contenu à mon corpus, c'est que je cherche à tester des hypothèses de départ, des hypothèses qui vont être vérifiées ou infirmées à travers la grille de codage que j'aurais élaborée ou que j'aurais reprise à mon compte. Donc vous voyez là que le CAGDAS fait ça formidablement bien, à une exception près, c'est qu'une fois qu'on a fini le codage du corpus, il n'y a plus qu'à l'exporter, le balancer sous SPSS, et là, à nouveau, la magie quantitative fait qu'on se retrouve avec de très beaux tableaux de chiffres. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'essayer de vous montrer, et je pense que c'est là où mon expérience douloureuse peut-être avoir pour vous un petit intérêt, c'est que ces méthodologies sont incompatibles, pour moi. Ce qui ne va pas de soi. Parce que, au fond, ces deux méthodologies prennent place dans le même outil, un CAGDAS. Elles placent en leur cœur une même opération, le codage des données. Et pourtant, pour moi, il existe 3 tensions qui rendent ces deux méthodologies divergentes et même contradictoires. 3 tensions qui ont trait d'une part à la place du codage dans la méthodologie, d'autre part à la nature des codes générés et enfin au déroulement pratique du codage. En ce qui concerne en premier lieu la place du codage dans la méthodologie. Dans l'analyse déductive, je l'ai dit, le codage c'est une étape avant l'analyse des données. que vous deviez sélectionner une grille de lecture que vous allez appliquer brutalement, ou que vous élaboriez vous-même votre grille d'analyse, l'élaboration du codage, c'est une étape qui prend place avant le codage des données, qui lui va se faire de manière systématique. Dans l'analyse inductive, le codage, c'est l'analyse des données. Quand vous avez fini votre codage, vous avez fini l'analyse de vos données. Vous êtes arrivé dans une optique que je vais nuancer dans un instant, mais dans une optique grandite théorie by the book. Quand vous avez fini le codage des données, vous avez réussi à dégager 5, 6 catégories pertinentes, elles-mêmes se divisant en une série de sous-catégories, l'ensemble donnant une grille de lecture du phénomène que vous observez, et le codage et l'analyse est finie. Donc le codage, c'est le moment où vous analysez vos données. Les codes générés ne sont pas les mêmes. Quand vous faites une analyse déductive, vos codes, ils doivent être unidimensionnels et homogènes. Parce que derrière, il faut qu'ils soient statistiquement significatifs. Il faut que, au sein d'un même code, vous n'ayez qu'un seul type d'événement ou qu'un seul type de phénomène social ou qu'un seul type d'interaction, quel que soit ce que, ou qu'un seul type qu'une seule thématique développée. Bon, adapté bien sûr à votre objet de recherche. Mais les codes doivent être unidimensionnels et homogènes. Puisque s'ils ne le sont pas, c'est toute la pertinence de la connaissance produite qui est remise en question. Alors que, dans une analyse inductive, par définition, les codes restent très longtemps pluridimensionnels et hétérogènes. Puisque le moment où vos codes deviennent, en théorie, unidimensionnels et homogènes, c'est quand vous avez fini votre analyse et que vous êtes arrivé à des catégories qui font sens, qui sont exclusives les unes des autres, et qui vous permettent de décrire la réalité sociale. Mais pendant très longtemps, vous avez des codes, vous ne savez pas trop ce qu'ils veulent dire, vous ne savez pas trop s'ils décrivent effectivement une réalité homogène, ou si en fait dedans, il y a deux réalités, deux phénomènes, deux types d'interactions qu'il faut absolument séparer, et il faudra y revenir plus tard. Ça, pendant très longtemps, vous ne le savez pas, et ça n'émerge qu'avec l'analyse des données. Donc, les codes que vous manipulez, dans tous les cas, c'est des codes, c'est la même chose. On les prend, on les clique, et on les affecte à notre données, à notre texte, en les cliquant glissant. Mais ce que ces codes représentent est fondamentalement, je crois, différent. Enfin et surtout, le déroulement pratique du codage n'a rien à voir, j'en ai déjà dit deux mots. Dans une analyse thématique, enfin déductive plutôt, le codage est méthodique et intégral. Vous codez méthodiquement l'intégralité de votre corpus. Ça peut être fait par vous, par une équipe d'assistants, ça peut être fait par n'importe qui. Il n'y a besoin de rien d'autre que de savoir de quelle manière affecter ces codes. Cette méthodologie, d'ailleurs, s'adapte très bien à des recherches comparatives, y compris comparatives à l'échelle internationale, où là, on peut mener de formidables travaux sur de très nombreux contextes. J'attire votre attention sur le fait que, comme le codage doit être méthodique et intégral, le nombre de codes doit être limité, puisque nos capacités cognitives sont limitées. Et j'en ai fait l'expérience, je vais tester pour vous, la grille de code beaucoup trop étendue pour être honnête. En l'occurrence, j'ai voulu coder, c'était mon mémoire de Master 2 à l'époque que j'avais fait sur les questions au gouvernement, j'ai voulu faire une analyse rhétorique des questions au gouvernement, donc j'ai été un très bon élève, j'ai traduit en une série de codes les grandes catégories de l'analyse rhétorique de discours, qu'il s'agisse des figures du discours, des types d'arguments, des lieux argumentatifs, donc j'étais très fier de moi. J'avais une grille en 250 items, et derrière, j'ai entrepris de coder mes questions au gouvernement de manière méthodique sur 250 items. Vous, je sais pas, moi, mon cerveau n'a pas géré. Constamment, je me rendais compte qu'à la fin d'une question au gouvernement, si je la relisais, j'avais oublié d'affecter 5 codes, et si je la relisais une troisième fois, j'avais oublié d'affecter 10 codes, et si je la relisais une quatrième fois, j'avais encore oublié d'affecter 2 codes. Et tout simplement parce que mon cerveau, mais je crois qu'on est tous à peu près fait pareil de ce point de vue-là, ne gère pas cette catégorie. Cette quantité d'informations, on ne peut pas être attentif à 250 items à la fois. C'est pour cela que le nombre de codes dans une analyse déductive doit être conservé, contenu dans une dimension restreinte. L'analyse inductive fonctionne complètement différemment. Ce que recommande, alors là c'est pareil, c'est l'analyse grandite théorie radicale, hein, on peut la discuter. Ce que recommande la grandite théorie, c'est de repérer ce qu'ils appellent des moments pertinents. Alors après, c'est à vous de définir de repérer des moments pertinents et d'en faire ce qu'ils appellent une micro-analyse, c'est-à-dire une analyse où presque tout doit être codé, puisque dans une optique de théorie ancrée radicale, c'est en codant absolument tout qu'on voit émerger des codes auxquels on n'avait pas forcément pensé, puis qu'on les regroupe, et c'est comme ça qu'on arrive sur des catégories rigoureuses. On pourrait discuter, et je pense qu'on va le faire ensemble, c'est ce qui sera intéressant, le déroulement en pratique. Je fais partie de ceux qui pensent que, en pratique, la théorie ancrée, elle se déroule rarement comme ça. et que ce travail de micro-analyse des moments pertinents, s'il peut, je l'ai expérimenté, il peut être fructueux, il peut être très heuristique et mener à la découverte de connaissances qu'on n'avait pas supposées. Très souvent, en fait, on est en train d'affecter des codes de manière absolument mécanique, alors que la conclusion, on la voit, la catégorie, on la voit, elle est là, elle est sous nos yeux. Donc on peut faire tout ce travail préalable de micro-coder chaque mot, et puis ensuite de regrouper les codes, et puis pour finalement arriver à la catégorie qu'on avait vue 3 jours avant. Mais parfois la catégorie, elle saute aux yeux, elle est là, elle est présente. Est-ce nécessaire de faire du microcoding ? C'est une question que je laisse en discussion. Donc, par définition, dans un codage inductif de données, les codes commencent très nombreux. Il y a souvent une phase où on affecte des codes de manière un peu obsessionnelle et frénétique, je crois à Thibaut, c'est ce que tu appelles de la codomanie. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a un moment où une espèce d'addiction de codage s'empare de nous et on affecte. Quoi. On affecte avec cette peur de... C'est peut-être mon esprit un peu obsessionnel qui parle, mais cette peur de « tiens, ça, j'ai pas codé, et si jamais derrière, je vais m'en resservir. » Sachant que c'est pas grave du tout, puisque derrière, on va resserrer notre grille de codage. Donc vous voyez que, en fait, si les deux méthodologies utilisent la même opération et le même outil, elles se déroulent de manière radicalement différente, et dans une certaine mesure, elles se déroulent de manière totalement opposée. Et chercher à faire les deux ensemble, je crois, c'est précisément... s'ouvrir un labyrinthe de codage dans lequel on rentre et on ne sait pas quand et surtout comment et dans quel état on en ressortira. Pour moi, ces méthodes sont structurellement incompatibles. Le vrai risque étant que, là je vous ai décrit tout ça de manière volontairement un peu stéréotypique, un peu idéal typique, plutôt d'ailleurs. Donc vous pouvez avoir l'impression que je décide dans quelle optique je m'inscris et puis rouler jeunesse, tout va bien se passer. En réalité, tout va pas bien se passer et c'est là que la perversion du logiciel apparaît. C'est que en pratique, la frontière entre les deux méthodologies est extrêmement ténue. Quand vous faites une analyse déductive, donc vous avez élaboré votre grille a priori, la tentation permanente, c'est de rajouter des codes. Mais permanente, parce que par définition, une grille de codage élaborée a priori, qui donc, par définition, comprend un nombre limité d'items, elle est simplificatrice et elle est limitée, et donc trop limitée, puisque on est toujours trop limité. Et donc la tentation, c'est d'ajouter des codes, c'est que tout d'un coup, on repère quelque chose, c'est intéressant, on se dit, tiens, ça j'aimerais bien savoir combien il y a ça à l'échelle de mon corpus. Et donc, à votre troisième document, vous rajoutez un code, et puis vous rajoutez encore un code à votre cinquième document, puis vous rajoutez encore deux codes à votre sixième ou septième document, parce que là, vous avez vu des catégories, tiens, mais ça, j'ai pas connu. Vous finissez avec une grille qui, initialement, faisait 35 items, c'était raisonnable, à la fin, elle en fait 130. Les risques, ils sont doubles. Premier risque, déjà, vous allez devoir vous retaper le codage de l'intégralité de votre corpus. Si c'était 5000 articles de presse, bon courage. Si votre grille est devenue trop étendue pour vos capacités cognitives et que vous n'avez pas fait gaffe, ça m'est arrivé, donc je sais que c'est possible. Du coup, c'est pas une seule fois que vous allez devoir recoder vos données, c'est deux ou trois fois sans avoir l'assurance que derrière votre codage il sera statistiquement significatif. Et puis, si vous aviez importé une grille initiale, le risque c'est de menacer sa cohérence. Et de réduire les potentiels de comparaison de votre recherche avec des recherches menées sous une grille analogue. Donc c'est fortement recommandé de ne pas le faire, de ne pas ajouter des codes. Et pourtant la tentation est là en permanence. On a envie de coder plus. Et on retrouve cette même tentation, c'est le supplice de Tantale, hein, quand on mène une analyse inductive, c'est que on affecte des codes un peu à droite à gauche, et puis à un moment donné on a envie de quantifier. À un moment donné, et même pour quelqu'un comme moi qui est un qualitativiste pur jus et qui est pas un amoureux des chiffres, à un moment donné, on a envie de pouvoir dire dans sa thèse, voilà, ça, je l'ai pas juste remarqué, je peux le prouver avec un chiffre. Ça, c'est pas juste dominant, ça représente tant de pourcents des discours prononcés. On a envie à un moment de quantifier. Et donc, le moment où on se dit, bon, allez, ces trois codes-là, je les affecte systématiquement. Comme ça, j'aurai un peu de chiffres, ça va être bien. Bon, les autres, par contre, je reste inductif. Bon, sauf que on est obligé de faire deux opérations intellectuelles qui sont pas les mêmes, qui sont d'une part une opération de catégorisation, d'autre part une opération de codage En même temps, moi j'ai pas pu, ça, mon cerveau n'a pas géré. Et le risque, c'est que là encore, le nombre de codes que l'on cherche à quantifier enfle au fur et à mesure du codage, et que 2-3 codes à quantifier, on finisse avec 35 codes à quantifier, ce qui serait gérable. Sauf que, d'une part, ça n'est pas gérable si à côté vous faites un microcoding et que vous cherchez à faire émerger des catégories, ou là, surcharge cognitive complète. Et puis, encore une fois, même risque, c'est que donc l'opération de codage devient de plus en plus longue, lourde, insoutenable, et puis dans les deux cas, vous êtes à nouveau obligé de recoder l'intégralité de votre corpus. Puisque vos codes, ou à votre 10e, 12e, 15e, 150e document, vous vous êtes dit, tiens, finalement, ça, le quantifier, ce serait pas si mal, en termes de communicabilité, ça pourrait faire une plus-value, bah oui, sauf que derrière, ça fait 130, 140, 200, 1000 items que vous êtes obligé de recoder. Alors, les méthodologies mixtes, donc, pour cette raison, me semblent séduisantes, certes, mais je crois méthodologiquement problématique et en fait tout à fait peu recommandable. Il existe une possibilité de combinaison entre les deux optiques. C'est une analyse séquentielle, c'est-à-dire dans un premier temps, vous prenez un petit corpus sur lequel vous allez mener une micro-analyse inductive en vous fondant sur les phénomènes que vous souhaitez observer. Vous en tirez une grille de catégories qui vous semble plus pertinente et vous utilisez cette grille de catégories pertinentes comme une grille de lecture que vous allez appliquer de manière pour le coup déductive à la grande majorité de votre corpus pour d'ailleurs quantifier de quelle manière elles se répartissent. C'est d'ailleurs la méthode de l'analyse de contenu au sens large du terme. Donc les deux méthodologies sont compatibles, mais elles sont compatibles de manière séquenciée. Et pour moi, elles ne sont pas compatibles ensemble au même moment du projet. Enfin, j'aimerais finir là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut monter un peu en généralité, ça c'est mon point de vue, il est un peu maximal, il est un peu radical, mais je le soutiens néanmoins. C'est que si vous désirez faire une analyse déductive de contenu ou une analyse inductive de contenu inspirée de la théorie ancrée, foncez dans les CAGDAS, ce sera le meilleur outil, il a été designé pour ça. Si vous ne désirez pas faire ce type de méthodologie, mais que vous désirez néanmoins travailler de manière plus interprétative, plus impressionniste c'est le versant péjoratif, mais plus interprétative sur du contenu qualitatif, foncez quand même dans un CAGDAS. Je crois, moi, que tout chercheur travaillant sur du matériau qualitatif a intérêt, et menant une recherche un minimum étendue, a intérêt à travailler avec un CAGDAS. Éventuellement, juste pour s'en servir comme un outil d'annotation et d'indexation. Même si vous ne faites pas d'analyse déductive, même si vous ne faites pas de théorie ancrée, je crois que simplement pour les possibilités de structuration de l'information qu'offre un CAGDAS, la capacité d'y importer de très nombreux documents et de structurer ces documents en différentes familles, la possibilité d'y indexer le contenu de manière extrêmement fine et évolutive, d'y laisser des mémos et d'ancrer ces mémos dans un segment de texte et de faire tout ça dans le même logiciel. Je crois que si on veut simplement mener une recherche avec de l'information très structurée, très organisée, le CAGDAS c'est un outil absolument parfait. Et c'est l'exemple que je donne toujours. Moi, en fait, c'est finalement comme ça que je me suis servi d'un CAGDAS. À chaque fois que je m'en suis servi, sans m'en rendre compte, c'est que finalement, même pour ma thèse, j'ai mené un peu de micro-analyse, j'ai fait un peu d'analyse inductive et j'ai sorti des catégories. En fait, les catégories que j'ai sorties, si je suis honnête, c'est des catégories dont j'avais eu l'intuition des mois auparavant. Et ma micro-analyse que j'ai commencé par faire rigoureusement, quand j'ai vu que mes catégories, voilà, il suffisait que je lise mes segments pour retrouver mes catégories à chaque fois. J'ai laissé tomber la micro-analyse, c'était une perte de temps pure. Les catégories, je les voyais bien, je les repérais à chaque fois. Là où par contre pour moi le CAGDAS ça a été une bouée de sauvetage et j'aurais pas pu mener le travail de recherche que j'ai fait sans, c'est que j'ai travaillé sur des débats parlementaires. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le matériau, c'est un matériau qui est très extensif, qui enfle très vite, et donc moi j'ai travaillé sur deux débats que j'ai suivis tout au long de leur parcours législatif, de leur première lecture au Sénat à leur dernière lecture à l'Assemblée nationale. Sur simplement deux projets de loi que j'ai analysés, ça représente 5000 pages de texte en débat parlementaire. Quand je rédigeais, 5000 pages de texte que j'ai lu une fois et demie. J'ai lu l'intégralité de mon corpus une fois, de A à Z, et j'ai relu derrière les passages qui me semblaient essentiels. Quand je rédigeais, je me souvenais parfois que des mois, voire des années plus tôt, j'avais lu un truc intéressant, je me disais, tiens, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, en parlant d'un sujet donné, je me souviens plus quoi, a dit ça, et ça c'était intéressant, j'aimerais bien pouvoir le citer. J'ai jamais mis plus de 30 minutes pour retrouver ce genre d'éléments dans mon corpus de 5000 pages. Jamais de la même manière, des fois parce que je me souvenais que je cherchais dans un code et tiens, coup de peau, j'avais affecté le code à ce moment-là, donc je retrouvais mon exemple. Des fois j'avais laissé un mémo, c'est soit l'un soit l'autre d'ailleurs. Et j'ai jamais cherché plus d'une demi-heure ce type d'exemple. Si j'avais pas Travis ou Kagdas, c'était perdu dans les 5000 pages de texte, jamais je les aurais retrouvés. Et pour cette seule raison, les capacités de structuration de l'information que ça offre, je crois que tout chercheur qui mène une analyse inductive fondée sur un corpus un minimum étendu a intérêt à utiliser un Kagdas. Je crois vraiment que ça, il y a un peu de temps d'apprentissage et derrière ça simplifie la vie. Deux mots de conclusion hein, pour vous parler des logiciels. Alors, NDivo et Atlas, une affaire de goût et de méthodologie. Puisque, évidemment, un éditeur de logiciels, lui, son intérêt, c'est d'en vendre, chacun d'entre eux vous dira, c'est le discours officiel, que NDivo et Atlas TI font tout très bien et qu'on peut tout faire dans chacun des deux. Sur le papier, c'est vrai. En réalité, c'est politiquement incorrect de le dire, mais j'assume mon politiquement incorrect. Il y a une épistémologie embarquée dans chacun de ces logiciels dont je crois il faut avoir conscience. Commençons par parler d'Atlas, avec lequel moi j'ai travaillé. Donc, comme je vous disais, il a été originellement conçu dans la perspective de la théorie ancrée. Aujourd'hui, les développeurs s'en défendent. J'avais discuté assez longuement avec les chercheuses de l'université du Surrey qui assurent la formation CAGDAS, et quand je leur ai posé la question en disant « Mais c'est quoi la méthodologie embarquée dans les deux logiciels ?» Elles m'ont répondu « Non, il n'y en a pas. » Je leur ai dit mais quand même dans Atlas, c'est un peu en théorie ancrée. Elle m'aurait répondu non, pas du tout, on peut tout faire dans Atlas. J'ai dit mais quand même, enfin, Juliette Corbin dans son bouquin le dit qu'elle a coopéré. Et alors là, ah oui, oui, mais faut pas le dire. Voilà. Donc il faut pas le dire, mais moi je le dis quand même. Donc Atlas TI, ça a été élaboré pour la théorie ancrée. L'avantage, vous allez voir, le fonctionnement. Atlas, ça s'apprend en une demi-heure. C'est un fonctionnement simple, intuitif, de plus en plus facile d'accès. Une demi-heure, j'exagère un peu, mais en une matinée, vous maîtrisez le logiciel. L'intérêt d'Atlas, c'est que vous avez un codage qui est clair, exhaustif. Atlas, ça ressemble à ça. Vous avez ici, ça c'est un bout de mon codage des débats parlementaires. Vous avez à gauche des questions gouvernement en l'occurrence. Vous avez à gauche le texte. À droite, là, vous avez, donc ça ressemble à ça du microcoding. C'est pour ça que je vous montre cette séquence-là. Vous avez un microcoding en l'occurrence où j'ai appliqué ma grille argumentative. Vous voyez, j'ai codé les différentes figures de style. Les différentes utilisations des pronoms, etc., les différents arguments. Et puis à droite, vous avez ma grille de code, vous avez une petite partie de mes 250 codes rhétoriques. Donc Atlas est très adapté à l'analyse inductive parce que vous avez finalement devant les yeux, à gauche, vos données, et puis à droite, la simplification de vos données en une liste de codes. Donc les catégories émergent de manière extrêmement claire. Les possibilités d'annotation sont immenses et l'intérêt d'Atlas, c'est de laisser des annotations partout, des mémos tout le temps, de classer ces mémos et ça permet d'élaborer sa recherche pendant qu'on fait de commencer presque sa rédaction pendant qu'on fait l'analyse des données. Enfin, bon, je pense qu'aujourd'hui, c'était un point important il y a 5 ans, je pense qu'aujourd'hui ça l'est moins, mais Atlas TI est peu gourmand en ressources. Donc pour ceux qui, comme moi à l'époque, ont un ordinateur de Clodo, c'est évidemment un point très important. Il y a des inconvénients. Le premier, c'est qu'on peut assez peu structurer l'information sous Atlas TI. Et le risque, c'est de se perdre. Et pour structurer les codes, on pourra en parler, mais simplement pour avoir ce que j'ai fait là, vous voyez là, ma grille de codage, vous voyez bien que j'ai une classification thématique avec des codes, des regroupements de codes, ce qui facilite l'affichage. Ça, c'est du bricolage. Atlas ne prévoit pas qu'on fasse ça. Et j'ai dû bricoler dans le logiciel pour classer mes codes comme ça, ce qui est quand même fou. C'est-à-dire que Atlas, lui, ce qu'il voudrait, c'est vraiment un truc purement inductif où vous avez tous vos codes jetés complètement en bazar au milieu de votre interface et puis ensuite seulement vous les regroupez en catégories. Donc, peu de structuration de l'information. Si vous voulez, alors, les outils de quantification, Atlas dit qu'ils comptent. Alors, formellement, ils comptent, hein, la fonction existe. Je vous la montrerai tout à l'heure, si vous voulez, c'est une vaste blague. C'est-à-dire que Atlas a la phobie du chiffre. Et pour trouver un seul chiffre dans Atlas, il faut bien le chercher. Donc, les outils de quantification intégrés sont extrêmement faibles. Et enfin, Atlas, pour être honnête, c'est moche. Voilà, ça ressemble à ça. C'est les logiciels soviétiques des années 80. On n'a plus forcément envie de travailler dans ce type d'interface aujourd'hui. Ça peut rebuter certains. NDivo, le concurrent, l'interface est belle. Alors, vous avez ici l'interface de NDivo. Je crois que c'est NDivo 8. On doit en être à NDivo 10. Donc, je suppose que l'interface est encore beaucoup plus belle. Donc voilà, NDivo, là tout d'un coup, on sent que Bill Gates est passé par là et qu'ils ont intégré les codes du logiciel Microsoft, en tout cas visuel. L'interface est belle, vous pouvez structurer l'information, NDivo est fait pour ça. Vous pouvez structurer les types de documents, les types de codes, les classifications hiérarchiques de codes sont intégrées dans le logiciel est fait pour ça. Donc c'est très facile de structurer l'information, c'est très facile d'indexer son corpus. très pratique. On peut affecter des variables à ces différents documents, alors que sous Atlas, il faut bricoler avec des familles. Sous NVivo, il n'y a pas à bricoler. L'affectation de variables aux différents documents, aux différents entretiens, aux différents débats, aux différents discours, aux différents articles de presse, affecter des variables, hommes, femmes, plus de 60 ans, moins de 60 ans, ou alors UMP, PS, ou alors journal du soir, journal du matin, bon, ce que vous voulez. Affecter des variables aux documents, c'est intégré dans NVivo, sous Atlas, il faut le bricoler. Et NVivo est fait pour compter. Il est fait pour compter, les outils de quantification sont très bien foutus, très bien faits, extrêmement pratiques. Les inconvénients, la visualisation du codage est très limitée. En fait, NVivo, c'est son défaut numéro 1, vous affiche un nombre limité de codes en même temps. C'est-à-dire que, en fait, concrètement, si vous voulez vous servir de NVivo pour faire du codage inductif, bah, c'est impossible. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir d'un coup d'œil, d'une part votre texte, d'autre part l'intégralité des codes que vous avez affectés. Donc derrière, si vous cherchez à recouper et regrouper plutôt les codes entre eux, c'est beaucoup plus... c'est quasi impossible. Le logiciel est plus difficile à prendre en main. Atlas, c'est une matinée, NVivo, c'est deux jours, quoi. Allez. Mais ça reste du logiciel qui est tout de même accessible. En somme, vous l'avez compris, hein, si vous faites de l'analyse inductive, c'est Atlas. Si vous faites de l'analyse déductive de contenu, c'est NVivo. Si vous utilisez un CAGDAS juste pour structurer l'information, à vous de voir. Atlas sera plus facile à prendre en main, plus flexible. NVivo sera un peu plus complexe à prendre en main, mais offre plus de possibilités de structuration de l'information. Ce serait moi, j'utiliserais NVivo, si c'était juste pour structurer de l'information. Mais j'utiliserais NVivo si j'étais sûr que derrière, je n'aurais pas envie de mener de la micro-analyse et de l'analyse inductive sur certains segments de mes données. Et enfin, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé Atlas plus que NVivo. Mon ordinateur implosait dès lors que je voulais charger le logiciel. Il nous restera, si vous le voulez, à ce que je vous montre très rapidement, souris en main, à quoi ressemble Atlas et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on affecte un code, tout ça. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà trop parlé. Ma raison, je vais vous remercier de votre attention et laisser la parole à Thibaut. Merci beaucoup.
Merci. Je vais essayer d'être très bref, peut-être pour aider à cerner, en fait, je suis assez d'accord avec Clément sur le fait qu'il faut quand même bien faire attention avant de rentrer dans ces logiciels, bon, de voir leur intérêt. J'insisterai peut-être un peu plus sur, je pense qu'il faut un peu plus d'une demi-journée pour pas mal de gens. Pas sur l'outil, effectivement, très facile à utiliser, mais c'est un peu effrayant parce que, précisément, on peut faire presque tout. Et à cet égard, les questions qu'on se pose, c'est pas juste avoir la problématique clé en main avant, c'est qu'est-ce que je recherche. On peut présenter sous la forme inductif-déductif, on peut aussi présenter les choses un peu autrement. Finalement, il y a le code, l'étiquette, c'est-à-dire vous sélectionnez un bout et vous allez le nommer. C'est hyper flippant de dire quel mot je vais choisir pour nommer ça. La question à laquelle vous devez répondre pour nommer ça, finalement, c'est soit vous faites de l'indexation thématique, donc c'est plus une logique effectivement déductive, c'est-à-dire de quoi ça parle. Ça parle immigration, ça parle insécurité, ça parle... Donc c'est des catégories assez générales qui ne disent finalement très peu de choses sur la manière dont les enquêtés le vivent, sur le vécu, sur l'expérience, ce sur quoi insistent beaucoup, beaucoup plus, effectivement, les théoriciens de la grande théorie. Donc, soit vous faites de l'indexation thématique, soit vous faites de l'interprétation analytique, c'est-à-dire comment c'est dit, comment c'est vécu. C'est l'enfer à distinguer. C'est très difficile, mais je crois que l'un des mantras quand on code, etc., c'est de se dire, voilà, il y a ces deux choses très différentes là. Pour une raison assez simple, c'est que si on commence à confondre les deux, ce que tout le monde fait, moi le premier, je dis, ah, c'est vraiment super intéressant, il me parle de ça, ça m'intéresse d'ailleurs pour une autre enquête, donc je commence à faire l'indexation thématique. Et j'oublie complètement mon problème premier, c'est comment ils vivent, en l'occurrence, moi c'est le rapport intello-parti, comment ils vivent la confrontation à la direction, etc. Donc on oublie très vite son problème parce qu'on est dedans. Et vraiment, c'est des outils extrêmement intéressants, mais voilà, indexation thématique ou interprétation analytique. Et peut-être une autre manière dans le choix à faire, c'est est-ce que vous êtes dans une logique vraiment arborescente, c'est-à-dire je range dans des cases, et on le voit bien, NVivo, c'est je range dans une case, cette case est rangée dans une autre case, etc. Ou vous êtes dans une logique réticulaire de réseau, c'est-à-dire je n'établis pas de hiérarchie dans tout ça, je verrai plus tard. Et vous allez voir, l'arborescent est rassurant, mais vous castrez facilement vos données, vous les mutilez, vous rentrez dans ce que vous avez envie d'interpréter. Et le réticulaire laisse une grande justice à la parole des acteurs, extrêmement fine, mais un réseau et un labyrinthe, ça se ressemble quand même pas mal. Donc vous avez un peu ces deux trucs-là. Et je rajouterai un autre dernier point, ça permet d'annoter, ça permet de gérer ses documents, donc, comme le dit Clément, de s'y retrouver, ça permet de coder, ça permet aussi de documenter chacune des phases d'interprétation. C'est-à-dire, vous avez les dates, vous pouvez tenir un journal d'enquête dans le logiciel. C'est-à-dire, on a un journal d'enquête sur le terrain. Voilà, l'entretien s'est passé comme ça, j'ai été à tel meeting, etc. Là, vous avez le journal d'enquête après. C'est-à-dire, voilà comment j'interprète. Voilà pourquoi je choisis ce mot-là pour ce codage-là. Donc ça, c'est finalement aussi intéressant pour ce que ça vous oblige à faire que pour ce que ça vous permet de faire. Vous ne dites pas simplement qu'est-ce que ça m'apporte, mais qu'est-ce que ça m'oblige à faire. En l'occurrence, ça vous oblige à une systématicité dans la réflexion. Donc des fois, c'est la codomanie. Est-ce que je dois vraiment nommer cette catégorie comme ça ou comme ça? Vous passez 3 heures. Mais ça vous oblige vraiment à faire du travail, pour le coup, de réflexivité qui est assez massif. On ouvre la séance des questions, doutes et autres atermoiements. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des bateaux là.
Moi j'aurais juste une remarque par rapport à la grande ordre de Pendas, du coup, sur les logiciels de lexicométrie. Du coup, vous avez seulement présenté, en fait, tous les avantages d'un tableau que vous citez, c'est ceux d'Alcest. Mm-hmm. C'est pas tous les logiciels de lexicométrie, on peut faire la lexicométrie avec vos commandes, c'est fait boîte noire, avec... où on peut avoir plus la main sur les données sans ce côté Alcest, où effectivement on met tout dans le logiciel et il en sort 99 pages et on se débrouille avec ça.
D'accord, avec quel logiciel par exemple?
Il y a Artemis par exemple qui travaille à partir de R et qui fait exactement ce que fait Alcest.
Ok.
Il est beaucoup quantitatif, enfin de la lexicométrie, mais on a plus la main parce qu'on a le code et on peut choisir les variables, on peut changer les variables, changer les formules derrière avec du codage d'hyper.
D'accord. Moi, je n'ai pas travaillé avec la lexico, donc je vous fais confiance, enfin, bien sûr. Intuitivement, la nuance peut-être que je vois à cette remarque, c'est que sous Alcest, on peut aussi, on peut modifier les formules. Mais moi, quand on m'a expliqué, on m'a dit, voilà, donc Clément, tu prends... avec unité de contexte élémentaire égale 4 et machin, et puis après, tu mènes la même analyse avec différentes données, et tu vois ce que ça donne. Ce que je veux dire, c'est que on peut modifier le code, ok. Combien d'entre nous sont vraiment capables de savoir quel impact une modification du code a vraiment sur le traitement qu'il y a? Et c'est en ça que moi je parle de boîte noire, où j'ai un peu tort, parce qu'effectivement, c'est pas une boîte noire, parce qu'en fait, on sait exactement statistiquement ce que fait le logiciel. Mais... combien d'entre nous sommes capables de saisir quel impact ça a sur la production heuristique de connaissances? Moi, je sais que je ne suis pas capable. Après, je ne suis pas statisticien. Donc peut-être que des gens qui sont bons en stats et en formules de type R sont capables de le faire. Enfin, sans aucun doute, d'ailleurs. Mais...
Oui, j'avais aussi une remarque sur Alcest. Et puis après, plus une question... des angoisses à partager sur Alcest. Sur Alcest, effectivement, c'est, enfin, comme tu l'as dit là en complément, c'est l'idée que quand même ce qu'on conseille, c'est effectivement de modifier la taille des unités de contexte élémentaire, donc soit TACMO, en gros, soit TACMO, soit SIMO, et donc du coup, quand tu dis un risque de production d'artefacts, effectivement, si tu fais le boulot vite et pas très sérieusement et tout ça, et que tu as juste envie de produire ton graphique, tu peux le faire. Comme cochon, mais normalement quand même tu es censé vérifier et du coup ça limite quand même un peu le risque d'artefact. Et l'idée c'est, enfin, ce que les gens qui utilisent Alcest disent, c'est quand même aussi que c'est quand on travaille sur des gros corpus, moi c'était ce que j'avais l'occasion de faire une fois, de toute façon c'était pas possible de faire autrement qu'en passant par un logiciel, et l'idée c'était que Alcest permettait de dégager des univers de sens, et puis après d'aller voir, bah, pour telle classe ça renvoie à tel type de citation, et puis après on va voir les citations. On commence à voir un peu plus de quoi il s'agit, de quoi ça parle. Donc c'est quand même, si tu le conçois aussi comme une entrée dans le, comme une façon de débroussailler le corpus,
oui, c'est ça.
Des choses et tout, ça a quand même, je pense, un intérêt réel, parce que sinon il y a toujours des corpus, on pourrait rien faire.
C'est oui, bien sûr, c'est l'intérêt exploratoire de la lexicométrie. Mais moi je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est comme ça que j'avais songé à l'utiliser, et je trouvais que c'était un bel outil. Donc oui, 100% d'accord. Le risque c'est que le logiciel a un tel aspect magique que ça, c'est ce qu'on fait si on est rigoureux. La tentation semble grande quand même de jeter les corpus, de faire UC égale 4, et puis c'est formidable, ça fait sens, allez hop, un article, ou hop, une production de colloque. Donc c'est plutôt sur ce risque-là que j'essayais d'attirer l'attention, tout en étant conscient effectivement qu'il est, il est éminemment dépassable.
Et après, sur. C'est pas vraiment une question très précise et tout ça. C'est sur l'utilisation d'Atlas, qui aille notamment, puisque moi c'est celui-là que j'ai commencé à utiliser. Quand tu disais, par exemple, toi aussi, Thibault, il y a un peu deux types de codage et deux types de logique, etc. Toi, ta proposition, Clément, c'était de dire, on peut faire deux choses différentes, mais successivement, il ne faut pas essayer de les faire ensemble. Mais en même temps, je ne sais pas, par exemple, si on regarde les démarches de recherche en sciences sociales, c'est quand même souvent qu'on est à la fois un peu déductif, parce que la plupart d'entre nous, on a quand même lu des trucs sur nos sujets avant de commencer à aller voir nos données. En même temps, un peu inductif aussi, parce que le but d'avoir des données, c'est quand même aussi de découvrir des choses nouvelles. Et c'est quand même souvent des allers-retours. Mais c'est difficile de juste dire, on va faire d'abord du déductif, et puis ensuite de l'inductif, comme si c'était juste deux étapes, et puis après, c'était fini. Et moi, les expériences que j'ai de recherche avec des méthodes Kali, mais jusqu'à présent sans Kali, c'était que c'était quand même des va-et-vient à chaque fois. Et je pense que là, quand j'ai commencé à coder, je fais un peu les deux. Et j'ai, du coup, ce que tu m'as dit m'a laissé encore plus inquiète que la séance. Je suis en train de faire n'importe quoi. Et pour le moment, je ne vois pas ce que ça va faire. Donc, comme conséquent, je ne sais pas si tout ira bien utilisé. Mais je ne sais pas si c'est si facile de s'avancer comme ça, parce qu'on est quand même obligé de faire des allers-retours.
En fait, alors, déjà. Dans Corbin et Strauss, en fait, ils ont quand même beaucoup assoupli l'idée qu'il faut partir à l'esprit vierge. Et il y a l'idée que l'important dans de l'analyse inductive, c'est de faire émerger de la connaissance à partir des données. Et ils reconnaissent qu'évidemment, on rentre dans ces données avec une série de concepts et de cadrages théoriques en tête. Ensuite, moi, ce que je dis, c'est. Il faut faire attention au traitement pratique qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'on fait quand on code ? Moi, ce sur quoi j'essaie d'attirer l'attention, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je fais quand je code ? Est-ce que je veux quantifier derrière ? Ou est-ce que je veux juste indexer ? Parce que ça, j'ai trouvé ça intéressant, et je veux m'en souvenir quand je rédigerai. Est-ce que je veux quantifier, auquel cas j'ai besoin de peu de code et qu'il soit systématique ? Est-ce que je veux pas du tout quantifier ? Et dans ces cas-là, on est dans de l'analyse inductive, où le codage peut être beaucoup plus libre. Ensuite, dans la dialectique que t'exprimes, moi, j'ai fait, pour dire deux mots du travail que j'ai fait, en fait, j'ai eu un aller-retour entre le déductif et l'inductif. Donc, moi, j'ai travaillé sur les débats parlementaires à l'Assemblée, au Sénat, en commission, en séance publique, en important brutalement une grille d'analyse qui était la démocratie délibérative. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était dans quelle mesure est-ce que les parlementaires respectent les normes délibératives de Jürgen Habermas et de temps en temps. Donc on peut difficilement, enfin c'est brutalement déductif. Enfin, j'ai importé un concept, en plus un concept avec un cadrage normatif derrière qui est quand même extrêmement structurant. Sauf que derrière j'ai fait deux choses qui font que à partir de ce point de vue déductif j'ai eu une analyse inductive. Déjà j'ai cherché à élaborer, alors ça c'est déductif, j'ai élaboré un indicateur de délibération. Qui n'était pas un indicateur thématique. Il y a une grille qui existe de Bechtiger, il y a une grille qui existe qui permet de quantifier la délibération, de repérer plutôt la délibération. Une grille thématique dit la délibération, il faut tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur. Moi, cette grille, elle ne me convient pas du tout, puisque l'un des indicateurs, c'est il faut que les orateurs soient sincères, qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils pensent ce qu'ils disent. Et Bechtiger et je ne sais plus comment s'appelle le second larron. Concède immédiatement, donc ça c'est un des critères de la grille, mais bon on l'applique pas parce qu'on peut pas évaluer la sincérité des acteurs. Manque de peau chez Jürgen Habermas, c'est la pierre angulaire de toute cette théorie, la sincérité des acteurs. Donc dire, ma grille repère la délibération mais elle a besoin de la sincérité, sauf que je peux pas évaluer la sincérité, moi je réponds, mais donc votre grille elle repère quelque chose mais on sait pas quoi. En tout cas elle repère pas la délibération habermasienne, ou du moins on peut pas en être sûr. Donc moi j'avais un problème avec cette grille là et donc j'ai élaboré un autre indicateur de délibération, qui est un indicateur a posteriori, qui a le défaut de laisser plein de séquences qui relèvent de la délibération dans l'ombre, qui a la qualité de garantir que ce qu'il identifie, ce soit bien, modulo quelques précautions, de la délibération habermasienne. Donc avec mon indicateur, j'ai lu mes débats parlementaires et j'ai repéré ce qu'on peut appeler des moments pertinents, qui sont des moments de délibération dont j'étais sûr que Jürgen Habermas n'aurait pas pu dire que ça n'en était pas. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? Je me suis dit, maintenant que j'ai identifié dans un corpus quelques moments, il n'y en a pas des masses, hein, mais quelques moments néanmoins, dont je puisse garantir que c'est bien de la délibération habermasienne, je vais en mener une analyse inductive pour rechercher si j'ai des dimensions communes à toutes ces séquences. Et donc là, j'ai mené une micro-analyse inductive de mes moments pertinents et j'ai montré, ben voilà, tous ces moments de délibération, ils ont en commun quatre dimensions, qui sont des dimensions que je repère moi comme constitutives de la délibération habermasienne. Et ça me permet de forger une grille de repérage, une grille de repérage de la délibération, qui n'ait pas été dérivée du modèle habermasien, avec l'inconvénient qu'il y a un des critères qu'on ne peut pas opérationnaliser, mais qui était fondé empiriquement, et dont je peux dire, voilà ce que toutes mes séquences délibératives ont en commun. L'objectif, mais dans une perspective plus large, étant que si ma méthodologie était un jour, on ne sait jamais, pourquoi pas, répliquée sur d'autres contextes par d'autres chercheurs, il pourrait dire, ben voilà, je trouve exactement les mêmes dimensions, et ça permettrait de dire, empiriquement, la délibération habermasienne, on la repère à ces quatre critères-là. Et eux, ils sont opérationnalisables, ils sont repérables dans le discours. Donc, au fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu une perspective déductive, puisque je pars d'une grille de lecture qui est archinormative, mais sur cette perspective déductive, j'ai élaboré, j'ai réinjecté de l'inductif pour commencer à préciser la théorie elle-même. Et en marge de ça, j'ai posé une deuxième question, j'ai dit, bon, bah, quand il n'y a pas de délibération, qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai eu une analyse purement inductive des séquences que moi j'appelle de compétition. Donc voilà un exemple de comment on peut utiliser un CACDAS et comment est-ce qu'on peut effectivement mêler dans une même recherche une partie déductive, puisque moi je suis parti avec une grille de lecture en tête, et en même temps garder des espaces d'induction dans le travail de recherche. La vérité, c'est que ce que je suis en train de vous présenter là comme quelque chose qui a l'air extrêmement rigoureux, c'est beaucoup de tâtonnements, beaucoup de rationalisation a posteriori, et je crois beaucoup de chances de tomber sur ces résultats-là. C'était absolument pas garanti que mon traitement sur CACDAS mène à ce type de résultat.
Peut-être pour ajouter, c'est juste évidemment qu'on le fait tous, on fait les deux. Mais souvent on oublie à quoi c'est la réponse, quel est notre problème par rapport à ça. Ce faisant, on peut produire des monstres avec des CACDAS, notamment on est à peu près sûr de se donner raison, c'est-à-dire on va utiliser une approche déductive, construire les codes, et ensuite on va coder ça en fonction de ça, on va sortir le query tool, donc le calcul des stats, et on va dire j'ai objectivé du quali, j'ai fait du quanti sur du quali, et j'ai donc prouvé, comme je le pensais au début, donc... Là, vraiment, le raisonnement tautologique où je construis les données pour me donner raison, et souvent, on le fait sans s'en rendre compte, justement parce que les deux problèmes sont quand même sensiblement différents. J'ai l'impression que les CACDAS pourraient finir comme l'analyse de réseau en France, en tout cas, c'est-à-dire que les trois quarts des travaux d'analyse de réseau en France, quand on voit les articles, c'est de la visualisation assez jolie, mais la plupart des enquêtes n'ont pas les corpus pour pouvoir faire une enquête d'analyse de réseau sérieuse, quoi. Là, il faut juste se poser très vite la question, en même temps qu'on dit qu'il faut s'emparer des CACDAS et que c'est vraiment un outil intéressant, à quel problème c'est une réponse? Est-ce qu'on est simplement on a envie de classer ce discours-là pour dire de quoi ça cause? Mais ça, in vivo, c'est vraiment bien fait pour. Soit on a envie de dire quel est le vécu des acteurs par rapport à ça, et alors là, il vaut mieux éviter l'a priori, parce qu'on est à peu près sûr de les faire parler à leur place. C'est un mélange de considérations épistémo et déontologiques. Très rapidement, on peut les faire parler quand même. Et notamment les CACDAS, on a vraiment l'impression que c'est eux qui parlent. Et dès qu'on crée l'étiquette et qu'on met le mot à la place de la citation, on est déjà en train de les faire parler. Donc c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut vraiment, vraiment distinguer les deux. Par ailleurs, le logiciel fait faire des trucs de fou. Psychologiquement, c'est assez bizarre. L'interface est sans médiation, oui et non. On est quand même face à du très très près du texte. Et vraiment, à chaque ligne, on a envie de signifier, dans tous les sens. C'est vraiment intéressant, c'est génial, ça parle de ça, etc. Donc, c'est quand même... pour pas mourir, il faut quand même vraiment se distinguer les deux, quoi. Sinon, je crois que ça ne répond pas aux conditions temporelles, à part pour les thésards, peut-être, financés. Pour tous les autres chercheurs, c'est inutilisable parce qu'on n'a pas le temps. Donc, il faut vraiment se poser la question de ça. Très pratique, très pratique. Et je suis d'accord, on fait ça tous les deux. Il n'y a pas de réponse plus.
Je voulais savoir si vous pouvez revenir un peu sur ce... son âme. Parce que l'avantage de son âme, c'est qu'on peut retranscrire à partir de son âme, c'est qu'on peut mettre des bandes, j'ai jamais utilisé, hein, donc c'est ce que j'ai entendu dire. On peut faire de la transcription à partir d'un fichier audio, c'est ça. Et en même temps, on peut faire l'analyse en même temps qu'on retranscrit ou a posteriori. Je sais pas si vous connaissez un peu le logiciel.
Alors moi, je m'en suis jamais servi, mais Thibaut, je crois que tu connais un peu, enfin bien même.
J'utilise. Alors c'est un CACDAS un peu bizarre, c'est pas vraiment un CACDAS. Donc en fait le concepteur il trouvait NVivo dans les anciennes versions assez pourries, parce que précisément on pouvait pas avoir ces catégories, on pouvait pas avoir tout ça d'un coup. Très vite, dès que vous avez plus de 6-7 codes sur NVivo, la fenêtre se resserre et donc je passe à l'interprétation, commence à être très difficile, on fait pas du vrai codage réflexif. Vous l'avez compris, je suis plus pour Atlas TI que pour NVivo, mais c'est ma manière de bosser, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Donc il s'est dit ça, donc c'est Alex Albert qui est prof à l'université de Rouen, de Tours, pardon, qu'est-ce que je raconte, de Tours, et il s'est dit, je vais inventer un CACDAS libre, c'est un peu un geek qui fait de la programmation, voilà. Et puis il s'est dit, mais c'est complètement idiot parce que je reproduis le même geste que d'hab, c'est-à-dire on va travailler sur des transcriptions. Alors que ce qu'on fait dans les entretiens, c'est de travailler sur de l'audio. On est en train déjà de fabriquer un artefact, revenons au son. Donc j'abandonne mon idée de CACDAS à la NVivo mais libre, je vais faire une sorte de travail sur le son directement. Donc ça veut dire quoi? Vous avez une interface, vous avez une interface où vous voyez votre bande, donc sous la forme d'un spectre, etc., et vous pouvez découper votre bande en plusieurs couleurs, et ces couleurs correspondent à des thématiques. Donc les deux avantages d'Atlas, c'est que vous voyez du son, ce qui est une expérience assez bizarre, mais ça, vous avez arrivé à penser le son et pas simplement le texte. C'est très simple, mais quand il y a des très très longues ou du paratexte, en fait ça change complètement le calcul de la place que prend l'enquêté ou l'enquêteur. Donc si vous voulez vraiment bosser sur les interactions, ou sur les meetings, si vous les enregistrez, parce qu'avec Atlas, avec Sonal, vous pouvez appuyer sur l'ordi, vous enregistrez en même temps directement. Donc Sonal, le gros avantage, c'est avant la transcription. Une fois que vous avez fait votre transcription, donc il y a plein d'outils assez géniaux sur Sonal, vous ralentissez la bande parce qu'il y a quelqu'un qui parle dans les voix, la voix beaucoup dans les basses, vous avez du mal à entendre, vous pouvez changer ses fréquences. Donc il y a plein de petits outils, c'est l'outil le mieux pour les transcriptions. Même si vous n'utilisez rien d'autre, mais juste pour ça, vous gagnez un tiers de temps, même par rapport au pédale à transcription. Et ensuite, vous faites de l'indexation. Plus que de l'interprétation analytique, c'est-à-dire vous faites du codal, mais ce que lui il appelle un code, c'est vous découpez en saucisson et vous dites ça parle ça. Pourquoi? Parce que lui il bosse sur des entretiens et il s'est dit, moi en fait j'ai ma grille d'entretien un peu a priori et ça correspond toujours peu ou prou dans les bandes. Donc je découpe comme ça et ensuite après il y a toute une série de fonctionnalités. Mais c'est pas du codage au sens où vous pouvez pas mettre plusieurs codes sur la même tranche. Donc,
il faut redécouper.
Ouais, mais c'est une phrase, c'est 4 secondes. Vous pouvez pas avoir des unités lexicales, donc mot, phrase, c'est trop court. Donc concrètement, en fait, c'est du gros segment. Donc, et plus de 2 ou 3 fois, là, c'est vraiment. Donc c'est du chapitrage audio. C'est du Audacity version Kali Sciences Sociales. À cet égard, c'est très très bien fait pour ça. Donc vous avez c'est le premier étage de la fusée, j'ai envie de dire. C'est un début de CACDAS. Mais vous ne pouvez pas coder plusieurs fois le même truc. Alors si il y a de la digression, s'il parle de plusieurs choses en parlant, etc., là vous avez des choses moins fines, mais vous pouvez l'importer. Et en aval de Sonal, vous avez des outils, parce que c'est un quantitativiste de formation, vous avez de la chronométrie, combien de temps on parle de quoi, c'est le meilleur outil pour ça, existant, gratuit. Vous avez des bases de données très rapidement que vous pouvez exporter. Donc là, vous voyez que c'est un peu plus NVivo comme logique que Atlas. On peut très rapidement passer après à du quanti. Est-ce que ça répond à peu près à votre... Voilà. Et je fais de la pub. Donc la prochaine séance, atelier, je parlerai de l'intérêt de croiser Sonal avec Atlas, justement parce que ça fait pas tout à fait les mêmes choses. Ça.
La date n'est pas encore fixée.
La date n'est pas encore fixée.
Est-ce que, parce que d'après ce que tu disais, on avait vraiment l'impression d'avoir deux logiciels qui étaient, donc, comme tu disais, avec des épistémologies embarquées très différentes. Moi, je ne ressens pas aussi fortement que ça la distinction épistémologique entre les deux. Enfin, en gros, ma question, c'est finalement, est-ce qu'on peut bricoler un petit peu ces deux épistémologies avec les deux logiciels? Et si la question, finalement, épistémologique ne se pose pas, dans le choix des logiciels, il y a une autre question qui va se poser, c'est la question de l'acceptation dans la communauté scientifique. Quels sont les logiciels qui sont les plus utilisés, les plus connus, les plus crédibles, enfin, dans le monde scientifique, au niveau international, par exemple, etc.
Alors, moi, sur les épistémologies embarquées, mais il y a une controverse. Hein. Donc moi, je vais persister et signer. Pour moi, elles sont très structurantes. Atlas TI, c'est le logiciel du bricoleur. Donc, on peut à peu près tout faire dedans, à condition de réussir à bricoler, d'une part. Donc là, vous voyez en direct. Hein, ici, je vous disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire de classification ascendante d'arborescence, voilà, c'est le mot qui m'a échappé tout à l'heure. On ne pouvait pas faire d'arborescence dans Atlas. Bon, là, vous voyez, une magnifique arborescence, ça, c'est ma base de données de thèse. Donc, on peut le faire. Sauf que c'est fait en bricolage, c'est-à-dire que chacun des choses que vous voyez ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, tout ça, c'est, pour Atlas, tout ça, c'est la même chose, tout ça, c'est des codes. Atlas ne connaît qu'une chose, c'est des codes. Donc, simplement, moi, j'ai des codes comme dynamique, délibération, qui sont des codes qui n'ont été affectés à aucun segment de texte. Ce que j'appelle des codes de regroupement, ils sont là juste pour créer de l'arborescence, et d'autres codes qui sont des codes signifiants qui eux ont été affectés 20 fois, 7 fois, 12 fois à des segments de texte. Donc Atlas ne permet pas de structurer les codes. Si on peut le faire, on y arrive, on bricole. Ça c'est du bricolage gentil, là ça reste encore, je dis gentil, sauf que si j'ouvre ma grille de code, voilà, alors, vous voyez, donc ça, je ne sais même pas si on va, voilà, ça c'est mes codes.
Quand ça se présente.
Donc, ça c'est le bazar d'Atlas, plus ou moins mis en forme derrière par un truc de bricolage qui permet de faire de l'arborescence. On peut faire pareil avec de la Atlas quantifie, hein, Atlas quantifie et Atlas exporte. Alors on a je sais plus où tools ou je sais plus où. Bon, je le retrouverai pas évidemment. Export, tenez, on le voit. Hein, export SPSS job. Voilà, donc vous pouvez exporter du Atlas sous un format exploitable dans SPSS et derrière faire un traitement en quanti de ce que vous avez codé avec Atlas. Moi je ne l'ai jamais fait et pour être franc, j'ai appris dans mes jeunes années de jeune étudiant à me servir d'SPSS et j'ai oublié comment m'en servir instantanément après. Donc je ne m'en suis jamais servi, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas si ça fonctionne bien, je ne sais pas quels sont les prérequis pour le faire, je ne peux pas dire. Mon sentiment c'est que je pense que ça marche. Mais c'est du bricolage, je vous le montre pour qu'on rigole ensemble deux minutes. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça c'est le fameux query tool. Donc j'ai jamais réussi à l'utiliser. C'est le fameux outil. Donc là déjà, la fenêtre, elle vous paraît impressionnante et incompréhensible. Rassurez-vous, ça reste le cas après 6 ans. Donc ça, c'est l'outil qui permet de faire des recherches et de faire des tri croisés. Alors on va tenter en exclusivité pour vous. On va tenter un tri croisé, ça va rater, hein. Je vous le dis, on va chercher. Alors attendez, on va regarder combien de fois. Alors un truc bien crado, genre allons chercher dans les arguments. Voilà, allons chercher combien de fois un argument ad personam a créé les oppositions et protestations des parlementaires. Donc on peut le faire, hein, sachant que j'ai bien. Do you want to know? Sachant que j'ai fait mon travail de manière correcte. Donc, on a dit ad personam. Oui. Alors, je veux les ad personam. Alors, je vous disais que que ça demandait peu de ressources, sauf quand, comme moi, il y a 5000 pages, auquel cas les ordinateurs sont. Et je veux savoir combien de fois ça a conduit de l'émotion. Alors, je dois avoir un regroupement de code émotion parlementaire. EFG. Pas du tout. Des exclamations, voilà. Combien de fois est-ce que des ad personam. Donc, j'ai codé 27 ad personam. Vous voyez que c'est pas du tout un code. Ça devait être des ad personam paroxystiques pour pouvoir les citer ensuite. Et sur ces 27 ad personam, nous en avons. On espère tous que ça marche bien. Hein. Ça va être un peu ridicule. On doit en avoir 3, 4, 5, 8. Voilà, on en a 8 qui ont. Voilà, donc là, on en a 8 qui ont créé des exclamations. Alors, j'attire votre attention sur le fait que vous voyez, je vous disais tout à l'heure que Atlas mettait du chiffre, mais il le mettait le plus petit possible. Le résultat, c'est ça. Je l'ai à aucun moment, vous aurez un chiffre plus gros que ça dans Atlas TI. Donc, pas de méthodologie embarquée, non, et pourtant. Et en fait, cette fenêtre, elle sert à quoi? Elle sert à dire, bah voilà, sur mes 25 ad personam, j'en ai donc 8 qui provoquent de l'exclamation, lesquels, hop, je clique dessus, et en fait, l'intérêt, c'est d'aller les revoir. Donc, je sais plus quoi, des conflits de voisinage, l'intérêt général est trop souvent sacrifié au profit de, bon. Surtout que je vous avais perdu. Ça doit être ça, l'ad personam. Donc, on peut le faire. On peut le faire dès lors qu'on veut sortir des tables de co-occurrence, le logiciel implose complètement. On sent qu'il n'a pas été fait pour ça, c'est vraiment moche, c'est difficilement exploitable. Donc, on peut bricoler sous Atlas TI, mais honnêtement, si on sait qu'on va vouloir quantifier, si on sait qu'on va faire du déductif, NDVO le fait vraiment mieux. Et pourquoi se compliquer la vie? Alors, pour moi, c'est là où, un peu comme Thibaut, moi je suis partiel, hein, j'ai utilisé Atlas pendant toute ma thèse. Pour moi, la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire que dans NVivo, comme le logiciel embarque une structure beaucoup plus rigide, il est beaucoup plus pratique à utiliser, la structuration de l'information est beaucoup plus agréable. Par contre, il est beaucoup moins maniable et on peut moins bricoler dans NVivo, et notamment la marge pour afficher les codes. Bah, dans NVivo, ça, vous l'aurez jamais. Mais jamais, on ne peut pas bricoler, c'est tout. La marge, elle n'est pas prévue pour faire ça. Donc faire de l'inductif sous NVivo, honnêtement, du vrai inductif théorie ancrée, honnêtement, je vois pas comment. Dans la communauté académique, je crois que NVivo est plus utilisé qu'Atlas TI, mais parce que, faut être honnête, il n'y a pas tant de travaux de théorie ancrée que ça qui sont menés, oserais-je dire, il n'y a pas tant de travaux de théorie ancrée que ça qui sont menés, qui mènent à une publication. Et donc, Atlas TI est peut-être un peu moins fréquent. Cela étant, je crois qu'il est tout à fait accepté dans la sphère académique. Il se trouve qu'en France, comme on est quand même assez peu à travailler sous des CAGDAS, et il me semble qu'il y a plutôt une grosse domination d'Atlas TI, il se trouve qu'en France c'est plutôt Atlas qui est utilisé.
D'accord. Mais par contre, juste pour compléter, dans les travaux américains que moi je connais de sociologues, ils utilisent beaucoup Atlas dans une logique très déductive.
Ah oui?
Ouais.
Je ne savais pas.
Ouais, les travaux de Michel Lamont par exemple.
D'accord.
Pour des doctorants, c'est obligé d'en passer par là si on veut que les résultats soient plus sérieux et que ce ne soit pas juste un truc ok. Et j'utilise, pour ceux que je connais, j'utilise Atlas. C'est vraiment du traitement de type quanti de données quanti.
D'accord, bah c'est vrai.
Une petite précision, c'est pas la dernière version de Atlas qui était utilisée. Maintenant, il y a les possibilités d'utiliser une logique arborescente avec les familles qui est beaucoup plus développée.
Ah, c'est vrai.
Donc.
C'est vrai,
on est sur un marché concurrentiel et en fait Atlas a bien senti aussi qu'il fallait. C'est un peu la version Microsoft Linux. En gros, c'est la même bataille qui se rejoue, c'est-à-dire un truc qui est très confort mais qui vous laisse rien faire et un truc qui est très chiant et pas ergonomique mais qui vous permet à peu près tout faire. Atlas, c'est un peu rattrapé sur ce truc-là, mais c'est vrai que pour faire du quanti, c'est quand même très problématique. Ça donne des trucs un peu problématiques, même si c'est.
Les deux tournent sur Mac.
Maintenant, oui.
Ouais. Par contre, Sonal sous Mac, alors ça marche, mais moins de fois que ça plante. Donc on peut l'utiliser, puis à peu près au moment le plus important, ça plante. Techniquement, c'est installable.
Les exemples Mac sont vraiment pourris, donc d'Atlas TI et de NVivo, c'est pareil.
NVivo Mac
NVivo Mac, c'est vraiment pourri. Donc,
le NVivo 10
oui, en rapport avec la dernière version pour Windows et surtout la dernière version qui est sortie maintenant, la preview de NVivo qui permet l'interopérabilité avec plusieurs.
C'est clair. Mais c'est logique IBM, NVivo, bon, tous les copains dans l'export, c'est SPSS, enfin c'est tout des grosses boîtes qui sont bien faites, et c'est tout sauf Apple, donc c'est sûr qu'il y a...
Merci pour l'analyse des médias sociaux. Donc,
ouais.
C'est autre chose.
Vous n'avez pas parlé du coût, en fait, du logiciel.
Ah, ah
c'est important, ouais.
Tu sais, Thibaut, je crois, En Vivo, c'est cher. Voilà, moi j'ai voulu l'acheter, j'ai abandonné. En Vivo, c'est cher. Je crois qu'Atlas, la licence, si on est étudiant, je crois qu'il est pas très cher.
150.
Je crois que c'est ça, ouais, 150€ ou 100€. Enfin, pas très cher. En Vivo, on est plutôt
à 400 presque. On est quasiment à 400.
Ah, je croyais même qu'on était à plusieurs milliers, mais d'accord.
Mais...
Je
pense que
c'est pour les institutions.
Ouais, il faut. En fait, j'ai pas réussi à trouver le chiffre un peu. Il y a beaucoup de forfaits, et donc si on en prend plusieurs, c'est moins cher. Donc c'est 3 ou 5 pour Atlas, 4 pour NVivo. Donc en gros, c'est quand même un coût non négligeable. Ça coûte cher. D'où le fait que si c'est simplement pour faire de l'indexation thématique assez simple par rapport à des grilles d'entretien, Sonal suffit largement. Si vous faites du microcoding extrêmement près, vous avez besoin d'export, mais c'est un coût financier, ce qui d'ailleurs me rend un peu schizophrène. On est en train de vous parler de produits vachement intéressants, mais inaccessibles aux précaires, et inaccessibles aux institutions en sciences sociales qui n'ont quand même pas des masses de thunes. Donc là, on est face à un problème. Il n'y a pas de CAC DAS. Il y a des CAC DAS libres, mais qui sont très peu développés. J'ai oublié le nom. Honnêtement, ça fait un petit temps maintenant que j'utilise des CAC DAS. J'ai pas réussi à ne serait-ce que l'appréhender. Et c'est presque plus développé. Donc là, on a un problème. Il faut que les institutions publiques financent le développement d'un CAC DAS libre. Ils explosent tout le monde en 3 mois, mais... On n'a pas de solution là-dessus. Il y a peut-être un autre truc à dire sur Atlas, c'est que c'est quand même beaucoup, beaucoup anglophone. NVivo, vu que c'est une grosse machine, les tutoriels sont en français. Ça dépend de vos maîtrises de la langue, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose, même si vous comprenez à peu près de manipuler la machine dans votre langue maternelle ou dans une autre langue. Ça, Atlas, c'est moins bon là-dessus.
Alors, il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est les logiciels ont tous les deux un coût d'entrée. En fait, ils ont un coût d'entrée en manipulation, ils ont un coût d'entrée, il faut apprendre où cliquer. Bon. Et là, le coût d'entrée dans NVivo est clairement plus important que dans Atlas. Ils ont un deuxième coût d'entrée caché, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est un coût en lexique. C'est-à-dire que les deux logiciels ont un lexique, une dénomination des mêmes choses de manière différente. Et c'est ce qui rend la réflexion de l'un à l'autre pas si simple que ça, et l'appréhension des deux logiciels pas si simple que ça. L'exemple le plus typique, c'est que dans Atlas, un dossier ou un projet, ça s'appelle pas un dossier ou un projet, ça s'appelle une unité herméneutique. Voilà. Et dans NVivo, un code, c'est pas un code, c'est un nœud. Voilà. Et les deux logiciels comme ça ont chacun leur jargon qu'il faut apprendre à maîtriser. Ça rajoute au coût d'investissement et au coût d'entrée dans les logiciels.
Par rapport au coût, faut peut-être dire aussi qu'il faut quand même aussi faire remonter les besoins que vous auriez. À l'ISH, par exemple, parce qu'ils sont dans une optique de peut-être acheter des licences, mais ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup de remontées, ils ne savent pas qu'ils seraient intéressés, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter si vous sentez que vous en avez besoin de faire remonter au service informatique de l'ISH.
Ils ont expliqué qu'ils feraient une enquête de besoin auprès des laboratoires pour justement savoir, justement sur ce volet analyse qualitative, s'il y a besoin d'acheter des licences particulièrement peut-être liées à NVivo ou à un autre CAGNAS. Voilà. J'espère que vos laboratoires font passer le message.
Déjà, chaque individu peut le faire.
Voilà, exactement.
Pas besoin d'attendre que ce soit le labo.
Du coup, par rapport à la conférence, enfin, on essaiera de faire un compte rendu, un petit retour. Peut-être même on prendra d'assaut l'enregistrement. Merci, Tim.
Pour les copains et les collègues qui n'ont pas pu venir, enfin, copains, copines. tout ça.
Collègue.
Donc là, on a enregistré. Et Clément a eu la bonté de dire qu'il n'a aucun problème sur le fait qu'on le mette en ligne. Donc voilà, faites passer l'info pour ceux que vous connaissez éventuellement. Et puis donc ben la prochaine donc ça sera formation qui sera un peu plus cette fois sur les logiciels, même s'il n'y aura pas de bidouillage pour l'instant. C'est encore une fois, avant de se lancer dans la CACDAS, vous avez vu que les enjeux sont non négligeables, discuter un peu d'enquête après, de type de corpus, etc. Notamment, est-ce que quand on a un corpus qui n'est pas totalement fini parce qu'on a que des trucs fragmentaires dans les archives, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc, ce sera des questions un petit peu plus pratico-pratiques, mais encore assez méthodo. Et pour une raison simple, les tutoriels sont relativement simples. En fait, c'est assez facile d'utiliser la machine. Ce qui est difficile, c'est de quoi en fait, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de ces trucs magnifiques? Et mon enquête, elle est là-dessus. Donc voilà, ça sera une tentative un peu plus atelier, interactif, pour dire qu'est-ce que je peux faire avec ça, quoi. Voilà. On vous tiendra au jus pour les dates.
Là, sur les débats parlementaires, tu as eu le texte. Le texte était déjà prêt, quoi.
Oui, c'est... Modo, quoi, mais, il était complètement prêt. Moi, j'ai tout importé du site de l'Assemblée et tout mis dans mon CACDAS. Et c'était la partie la plus facile du processus.
Parce que si on fait sur la fin du 19e, où c'est les débats sont en ligne, on peut les télécharger aussi en texte. On a oublié de reprendre tous les textes, quoi. C'est ça, simplement la constitution du corpus, ça demande un temps.
Ça je pourrais vous en parler.
Ouais. Un temps colossal. Quoi.
Ça peut. Ça, alors le oui, ça c'est vrai. Ouais. Si on veut travailler sur du texte, c'est beaucoup 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 plus facile si on a le texte numérisé et numérisé proprement avec reconnaissance des caractères. Ouais. Et si on a le texte soit non numérisé, là c'est la galère infinie, soit photographié au format PDF ou au format image sans reconnaissance des caractères, ça marche. Mais c'est vraiment galère.
Mais Gallica, c'est une océanisation automatique. Il ne corrige rien, quoi. Donc, les débats parlementaires sont océanisés, mais c'est la première océanisation, quoi. Après, il faut tout. Hein?
Ouais, bah,
Il y a des morceaux qui sont pas reconnus.
Sur la préparation du corpus, on en parlera, je pense, pas mal pour l'atelier, puisque, pour le coup, moi, je n'ai pas eu... C'est ce privilège bourgeois d'avoir un corpus déjà numérisé et clos. Donc moi, j'avais que les trucs foireux à numériser, à scanner, etc. Donc quand je vous dis ça oblige à faire plein de trucs, un CACDAS, c'est tout simplement d'avoir des fichiers numériques. Donc ça veut dire vous prenez vite 6 mois, 8 mois dans les archives ou autres à scanner, voilà, dans le scanner. C'est probablement un cancer des ongles dans... Voilà. Mais par contre, ça vous oblige aussi à faire un vrai travail de corpus. C'est-à-dire que vu que vous êtes obligé de faire ça pour rentrer dans la machine, vous avez une réflexion d'organisation, de mettre des mots-clés sur chacun des documents, en tout cas pour ma part, hein, que j'aurais jamais eu sans être obligé de le faire. Quoi. Donc ça, voilà, ça vous oblige à faire plein de trucs, mais ça fait un travail aussi.
Je vous montre, tant qu'on a le... Pour vous montrer en fait ce qui est, je pense qu'on est d'accord avec Thibault là-dessus, ce qui est l'intérêt d'Atlas, c'est donc là vous avez mes codes, mon texte, ma grille de code qui est étendue. En fait, l'intérêt de tout ça est caché. Il faut cliquer sur mémo ici. Et donc, là, vous voyez les 421 mémos que j'ai laissés tout au long de mes, 4 ou 5 années d'analyse de mes données. On peut classifier les mémos. Alors, je l'ai su beaucoup trop tard. Donc, j'ai une classification qui est beaucoup trop rude, mais j'aurais préféré classifier mes mémos de manière beaucoup plus fine pour mieux les retrouver. Et donc là vous avez des mémos qui sont du commentaire qui permettent là ça c'est vraiment le type de post-it ou le type de truc qu'on laisse sur la marche parce qu'on veut s'en souvenir, on se dit tiens peut-être qu'un jour ça me servira. Là, typiquement c'est vraiment du commentaire qui sert à rien, purement juridique et argumentatif, mais qui sait, peut-être m'en suis-je resservi derrière. Des mémos qui sont déjà là de l'ordre de plus une mention explicite du groupe adverse en tant que groupe. Là, on est déjà plus dans de l'analyse des données et ça fait partie des choses qui peuvent se retrouver plus facilement dans de la rédaction. Et puis ensuite, comme exemple signifiant ou pertinent, et puis ensuite, vous avez des mémos théoriques dans lesquels j'ai, en ce qui me concerne, élaboré, qui sont plus importants, qui parfois ne sont liés à aucun segment de texte. C'est le cas de celui-là, par exemple. Vers un éventuel chiffre méthodologique, c'était une journée de grande remise en question. J'ai décidé de changer absolument toute ma grille, je pense pour le mieux. Et c'est pour vous montrer comment est-ce que, et c'est ce que disait Thibault quand il disait qu'on a l'archive, enfin on a toute l'intégralité de son processus intellectuel qui est daté, qui est archivé. Là, c'est le cas. Et ce qui est intéressant, ce qui est étonnant, c'est que 420 mots Moi, on m'aurait dit ça, j'aurais dit c'est impossible de s'y retrouver. Et quand je rédigeais, j'ai jamais eu la moindre difficulté à retrouver. Enfin, ça m'a jamais pris plus de 30 minutes pour retrouver quelque chose auquel j'avais pensé que j'avais annoté. Et le vrai, voilà, ça, série d'amendements, séquences complètement compétitives. Je sais pas pourquoi c'est dans théorie, mais c'est le genre de choses qui, quand on rédige, est parfaite parce que les bons exemples, ceux dont on a besoin, ils sont là, ils sont présents. On a juste à cliquer dedans. Et c'est ça en fait, pour moi, la qualité, l'intérêt du CAGDAS. Et c'est en ça que je vous disais que ça peut profiter à peu près n'importe quelle recherche qualitative, parce que là-dedans, on n'est pas dans l'épistémologie embarquée. C'est pas nécessairement inductif, c'est pas nécessairement déductif. C'est de l'analyse interprétative qualitative. Et vous voyez ici que avec des mémos comme ça qui sont indexés, datés, titrés et liés à un segment de texte. On a un outil qui est très puissant dans l'élaboration progressive de sa réflexion. Que je ferme très vite pour pas que vous lisiez les horreurs que j'ai écrites, évidemment, durant ces 5 années.
Je suis en train de penser qu'on a oublié de dire un truc. En fait, tout ça est exportable. Donc à partir du moment où vous avez fait la sélection de segments de texte, je dis ça au hasard, mais par exemple quand on est en thèse et qu'on a envie d'avoir l'exemple qui va bien, le copier-coller, c'est toutes ces opérations invisibles, on ne sait pas trop d'où ça vient, même si on a la référence, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre. Donc après, vous pouvez générer directement tous les citations, pas que les codes, qui vous intéressent, les balancer sur un traitement de texte. Donc c'est un coût d'entrée énorme, mais il faut aussi dire que ces capacités-là d'export facilitent quand même pas mal le travail, typiquement dans l'analyse de discours, l'analyse d'entretien, vous avez votre bloc, vous avez déjà la référence.
Tu vois que tu peux exporter à partir du notice tous les segments.
Exactement, tous les codes qui parlent de ça, enfin ce que tu veux, tu sélectionnes, donc citation ou les codes ou les mémos. Donc tout est exportable séparément ou avec. Et ça, c'est pour le travail de thèse notamment.
C'est-à-dire que ça marche comme Zotero, on a un outil en plus dans Word qui fait qu'on tape un truc et tout arrive dans Word direct.
Ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu pars du CAGDAS et tu arrives sur le traitement de texte. Ouais. Malheureusement, LibreOffice n'est pas encore en partenariat avec eux puisqu'ils sont tous propriétaires. Le jour où il y a un libre, je pense que ça se fera effectivement.
Okay.
On a tout dit sur les CAGDAS. Merci encore à Clément. Hein. C'est précieux. Et puis à très bientôt, j'espère, pour la suite.